Alors nous allons commencer cette première table ronde sur la question des étrangers, hein, nous allons le voir. J'en profite pour commencer traditionnellement par remercier les organisatrices, Laetitia Brunin pour le ministère de la Justice et Liora Israël pour le HESS. Et d'une façon générale, pardonnez-moi, mais c'est un peu dans la lignée de ce qui a été dit, mais il faut que ça soit dit aussi, j'en profite pour remercier le ministère de la Justice et le CNRS à travers l'institution que je représente pour leur soutien. Pour leur soutien d'une façon d'ailleurs générale au dialogue qu'il peut y avoir entre les professionnels et la recherche, parce que c'est un dialogue qu'on recherche de plus en plus, et c'est un dialogue là qui est très représentatif de cette journée d'aujourd'hui. Alors revenons au thème essentiel de la journée et surtout cette table ronde, donc les frontières du droit qui évidemment peuvent être prises les frontières du droit et de la justice, pardon, qui peuvent être prises sous des angles à la fois théoriques et d'usage très différents. Et cette première table ronde va essentiellement s'intéresser à ces frontières du point de vue d'un sujet qui est particulièrement d'actualité, bien sûr, qui est finalement celui des étrangers. Et de la question de est-ce que cette frontière, comme ça a été dit tout à l'heure, représente un mur du point de vue du droit et de la justice. Or, bien évidemment, ce qu'ont de commun ces interventions, même si elles peuvent paraître diverses sur le papier, ça va être de montrer que, en réalité, ces frontières, évidemment, du droit sont très poreuses et qu'elles sont surtout... Elles sont surtout ce qu'en font en réalité les acteurs et les stratégies des acteurs assez différents. On va voir les acteurs étrangers vus comme des victimes, des acteurs étrangers aussi qui peuvent être des criminels, mais aussi d'autres acteurs, bien sûr, qui interviennent, qui sont les institutions judiciaires ou les institutions administratives. Alors, cette colonne vertébrale, on va dire, de ces interventions, elle se décline finalement autour de trois questions qui vont revenir après de façon plus ou moins importante selon les interventions, qui sont d'une part s'interroger sur la façon dont sont définis et se définissent eux-mêmes, bien sûr, les étrangers par rapport à ces frontières, la façon dont ils sont traités, évidemment, tant théoriquement que dans les usages, ce qui pose en miroir la question... bien sûr, de l'effectivité ou de la non-effectivité du droit et des enjeux politiques, économiques ou autres qui peuvent se cacher derrière. Voilà. Sans plus attendre, je vais laisser la parole tout d'abord à Madame Simona Cerutti, qui est directrice d'études à l'EHESS et qui est spécialisée sur la question des étrangers dans les villes, sous l'Ancien Régime, et qui a d'ailleurs publié en 2012 un ouvrage sur la question chez Bayard. Sa vision est particulièrement intéressante parce que, d'une part, elle va nous conduire à relativiser ce qui est l'étranger, puisqu'on va s'attaquer ici au temps long en parlant de l'Ancien Régime. Et en plus, on va aussi le relativiser car on va déconstruire en réalité cette notion, on va le voir. Puisque l'étranger, là, n'est pas tant vu comme la personne qui est en dehors de la frontière nationale ou politique, mais plutôt en dehors de la frontière sociale. Donc l'étranger n'est pas vraiment l'autre. Je vous donne immédiatement la parole.
Merci beaucoup. Donc, étranger dans les sociétés d'Ancien Régime. Et il faut d'abord dire que ce n'est pas simple de trouver de définition de la condition juridique des étrangers dans les sociétés occidentales de l'époque moderne. C'est-à-dire qu'à cette catégorie ne sont pas consacrées des rubriques spécifiques qui puissent nous éclairer sur les traitements qui pouvaient leur être réservés. Ce qui fait contraste par ailleurs avec le fait que les notions qui désignent l'appartenance locale, c'est-à-dire natif, bourgeois, citadin, etc., ont une importance capitale pour dessiner les hiérarchies sociales de ces sociétés. Donc, si l'on s'interroge sur les étrangers, l'on doit suivre un parcours plus indirect, en rechercher les traces dans une pluralité de sources et interroger les contextes dans lesquels cette condition est inscrite. Et en ce sens, une catégorie apparaît d'une très grande importance dans les sources, à laquelle l'on accorde un espace notable dans les décrets concernant la justice civile dans plusieurs des États européens pendant l'Europe moderne, et qui fit l'objet d'une attention tout à fait particulière de la part des juristes. Il s'agit de la catégorie des personnes misérables. Et c'est une catégorie dépaysante, car elle rassemble des figures sociales apparemment très disparates. Les forenses, donc les étrangers, les gens venant d'ailleurs, mais aussi les pauvres, les veuves, les mineurs, les orphelins, les soldats, les salariés, les pèlerins et finalement les marchands. Donc une catégorie dépaysante qui rassemble des figures sociales apparemment très très disparates. Or, des personnes misérables, l'on traite dans le cadre de procédures judiciaires, car ils ont droit à une procédure judiciaire privilégiée, qui est brève, plus directe et moins coûteuse que celle ordinaire. Cette procédure s'appelle sommaire. Alors, quelle est donc cette catégorie ? Qu'est-ce que permet le rassemblement de figures sociales qui nous paraissent aussi disparates, donc ? Et pourquoi cette catégorie demandait-elle l'attribution de privilèges, et d'un privilège judiciaire en particulier ? Donc, ce que je vous propose est une sorte de parcours à l'intérieur de cette catégorie et des prérogatives judiciaires qui lui étaient attribuées, ce qui nous permettra, je l'espère, de comprendre qu'est-ce que c'était qu'un étranger dans ces sociétés modernes et quels étaient les traitements qui lui étaient réservés par le droit. Or, pour comprendre la logique qui préside à ces rassemblements, il faut d'abord reconstituer les prérogatives juridiques qui caractérisent chacun des misérables. Donc les veuves, les mineurs, les pauvres, les marchands, et avec les étrangers. Donc dans les sources juridiques et judiciaires depuis au moins le XIVe siècle, ces figures sociales partagent une faiblesse qui n'est pas d'ordre économique, mais qui concerne leur moindre inscription familiale et sociale. Veuves, mineurs, orphelins partagent l'impossibilité à disposer à plein titre de leur propre patrimoine et de le transmettre, ce qui les situe dans une position de marginalité par rapport à la famille et à la parentèle, qui s'identifie, il faut bien savoir, dans les sociétés d'ancien régime, moins au lien de sang qu'à la transmission des biens. Familia idest substantia. Donc leur faiblesse tient à un statut juridique diminué, à une imbécilité qui les oblige à faire recours à une figure qui puisse les représenter dans tout acte public, donc en toute heure, pleinement douée de tous ses droits. Or, cette marginalité par rapport à la complétude des droits est partagée aussi par les pauvres, qui se retrouvent aussi parmi les personnes misérables. Encore une fois, ils sont caractérisés, du point de vue juridique, par une faiblesse qui n'est pas économique, ou pas seulement économique. Les pauvres que le droit prend en compte sont les pauvres dits honteux. C'est vraiment le mot qu'on utilise dans les sources. Chez qui la pauvreté n'est pas une condition structurelle, mais correspond à une chute sociale, à une condition qui suscite la honte et les oblige donc à se cacher et à s'éloigner de leur groupe social. La pauvreté, dans les classifications juridiques d'Ancien Régime, plutôt qu'à une condition économique, renvoie à une idée de déprivation. Et celle-ci, à son tour, est strictement associée à une idée d'éloignement du corps social, et donc à l'absence de relations de soutien. Donc c'est bien cet isolement qui fonde l'assimilation entre veuves, mineurs, orphelins et pauvres. Et c'est encore une marginalité par rapport au corps social, une moindre inscription dans un réseau stable, qui caractérise les figures sociales de la mobilité qu'on retrouve parmi les misérables, et donc les pèlerins, les soldats, les mercenaires, donc dans cette partie de l'époque moderne, les salariés, les marchands aux pieds poussiéreux, enfin les marchands qui itinérants, et finalement les forenses, donc les étrangers. Toutes ces figures sociales deviennent compatibles et peuvent se côtoyer dans la catégorie donc des misérables. Ce que s'y dessine ainsi est une ère sociale spécifique caractérisée par la faiblesse de ressources relationnelles. Une ère sociale caractérisée par une moindre inscription dans la ville. Les figures des veuves, des orphelins, des mineurs, des pèlerins, etc., des étrangers, sont atteintes par une fragilité issue de leur statut juridique ou de la mobilité sur le territoire, qui les empêche de remplir les conditions pour participer à plein titre à la cité. L'inverse du misérable n'est pas le riche, mais le bourgeois, le citadin, c'est-à-dire celui qui est inscrit dans un réseau stable de relations sociales et qui jouit d'une personnalité juridique complète. La résidence apparaît ici, dans la définition de la citoyenneté, clairement comme une preuve essentielle de l'appartenance active à une communauté et de la participation à la construction de la ville dans la plupart des sociétés de l'époque moderne. Elle dessine en fait un principe très fort l'idée que la citoyenneté est liée à la capacité à remplir un contrat social, à être inscrit dans un réseau stable de relations, à faire ensemble la ville. Il n'y a rien de naturel et d'acquis une fois pour toutes dans cette notion de citoyenneté. Et en ce sens, celle-ci rejoint certaines définitions formelles que quelques juristes du XIVe siècle en avaient données, en particulier Bartolo da Sassoferrato, qui a beaucoup insisté sur le caractère contractuel de la condition de citoyen. Et Bartolo souligne à quel point il n'est pas question de lier ce statut à la seule naissance dans la ville. Omnes sunt civis civiliter. Tout le monde est citoyen de la ville. Certains à cause de leur naissance et d'autres pour des causes différentes. C'est la ville qui fait le statut du citoyen. Celui qui habite la ville, c'est lui qui habite la ville. Vere erit civis. Comme tous ceux qui participent à ses charges. Donc on est confronté là à la première expression théorique d'un principe volontariste de la notion de citoyenneté, ancré sur la loi civile et non plus lié au principe du jus sanguinis et du jus loci. Ce qui nous dit que le langage de la citoyenneté est donc fait de pratiques sociales plutôt que des statuts, et celle du citoyen est une condition plutôt qu'une qualité, un statut durablement acquise. Et de même pour le contraire, l'étranger. Les deux conditions sont caractérisées par une très grande perméabilité. Bien qu'étant né dans un territoire ou dans une ville, on peut être étranger. L'origine géographique ainsi que la mobilité sur le territoire peuvent évidemment être responsables de leur inscription, de cette inscription imparfaite dans le tissu social, mais manifestement, celle-ci n'est pas la seule condition de l'extranéité. La figure du forensium, ou bien du pèlerin, ou encore du soldat, en côtoie d'autres. Donc la moindre insertion dans le tissu social a des multiples causes. On peut être étranger en tant que mineur. On peut le devenir lorsque les aléas démographiques transforment notre place dans la famille et dans la succession. Et lorsque des renvers économiques nous ont privés de la principale parmi les ressources, c'est-à-dire les relations et les liens sociaux. Or, qu'est-ce que le droit prévoit pour ces catégories de non-citadins? La catégorie des misérables est d'autant plus présente dans les sources juridiques que, nous l'avons dit, elle fait l'objet d'une attention particulière du droit et de l'attribution de privilèges spéciaux, dont le premier est celui d'une procédure judiciaire particulière, la justice sommaire. Une justice qui déroge au principe de la procédure ordinaire. Donc, analyser sa grammaire et son fonctionnement pendant l'époque moderne par rapport à la procédure ordinaire permet de cerner le problème du statut attribué aux citadins, aux étrangers, et donc le statut juridique attribué aux relations sociales, et permet de s'interroger sur les dispositifs qui étaient mis en œuvre quand ces relations sociales faisaient défaut. En d'autres termes, quel est le droit auquel sont soumises les personnes sans attache locale? Donc là, je vais résumer de manière très brève et je crois schématique aussi, des résultats d'une recherche qui m'a occupée pendant un bon moment. Donc, dans les textes juridiques, dans le décret concernant la justice, ainsi que dans les statuts urbains à partir du XIVe siècle, la procédure sommaire renvoie donc à un rite abrégé, peu coûteux, sans écrit, sinescrit, car aucun libelle est rédigé et il n'y a aucune trace des argumentations des avocats dont la présence est interdite dans les salles du tribunal sommaire. C'est une justice rapide. Le jugement doit être en principe rendu le jour même de l'audience et qui prévoit la confrontation directe des acteurs et où le juge occupe donc une position arbitrale. La procédure, en outre, se déroule ce qu'on appelle « sine figura judici », c'est-à-dire car à aucun moment sans figure de justice, de jugement. Car à aucun moment, dans la rédaction de la sentence, une référence est faite aux lois, aux coutumes et aux précédents. Jamais. Chaque cas constitue un cas particulier qu'on ne peut pas inscrire dans une série et dont la validité est mesurée sur l'attitude des parties et non pas sur des normes extérieures au débat. Autre caractère original, c'est une justice qui privilégie des systèmes d'épreuves très différents de ceux en vigueur dans les tribunaux ordinaires, alors que les rites ordinaires, encore tout au long du XVIIIe siècle, attribuent une place de choix au témoignage, la procédure sommaire, en cohérence avec la prescription sinistrée, plutôt sans bruit, prévoit très rarement des témoins, alors qu'elle attribue une importance décisive à tout type d'écriture, enfin, depuis les livres de négoces, aux brouillons, aux billets échangés entre les parties, etc. Étant donné le rôle de témoin dans le procès, c'est-à-dire ils étaient rarement appelés comme témoins des faits, comme témoins oculaires, mais plutôt pour attester de la renommée, de la fama des personnes, on peut mesurer l'importance de ces changements. Et ce primat des écrits s'accompagne encore d'une autre élément, le dernier, autre d'une preuve très originale, c'est-à-dire le serment, qui accompagne toutes les déclarations des acteurs et que les acteurs proposent aux adversaires. À travers son recours et l'échange entre les partenaires, le procès se dessine donc comme un lieu de rencontre d'individus dont la présence au tribunal témoigne moins de la volonté de punir l'adversaire ou en obtenant un arrêt favorable que celle de mettre fin à un conflit à travers un accord. Par rapport à nos attentes, donc, l'utilité du procès ne réside pas dans la reconstitution de la vérité. Ce qui compte est plutôt la suspension du conflit. Et donc la reconnaissance de la part des acteurs de la validité des instruments à disposition pour faire cesser toute hostilité. Le serment constitue, encore une fois, une preuve particulière, construisant une responsabilité judiciaire qui est résolument individuelle, qui contraste avec celle affirmée par le droit positif, qui est très souvent solidaire, in solidum. Donc, revenons donc à la configuration d'ensemble du procès. La procédure sommaire se présente comme un rite judiciaire bref, direct, peu coûteux, sans avocat, qui réduit jusqu'à gommer le rôle des normes locales, des coutumes et des tout précédents, qui s'appuie sur un système probatoire privilégiant les écrits et les serments par rapport aux témoins et dans lequel les formes prises par la citation ainsi que les statuts donnés à la contumace affirment une conception individuelle de la responsabilité judiciaire. Tous ces éléments opposent donc le procès sommaire au procès ordinaire ou priment une responsabilité solidaire exprimée à travers tous les moments procéduraux, depuis la citation jusqu'au système probatoire dominé par les témoins et la renommée, avec une place de choix faite aux normes et aux coutumes locales. Or, cette distance entre les deux procédures est construite et recherchée. En fait, la procédure sommaire suspend les privilèges et les prérogatives qui distinguent ceux qui jouissent d'un enracinement local, dont le droit positif est imbibé. Parce que finalement, c'est bien là le premier et le plus profond des déséquilibres qui caractérisent le procès d'Ancien Régime. Bien sûr, la justice opère des discriminations entre riches et pauvres, puissants et non, etc. Mais l'enracinement local, avec ses compétences juridiques et sociales, est bien le premier privilège que cette justice prend en compte et ne cesse de reproduire. Dans les tribunaux ordinaires, la gravité du crime, le niveau des responsabilités, le poids des peines sont modulés sur des échelles de l'appartenance et de l'enracinement local. Or, la procédure sommaire est une justice supralocale. Ses caractères sont recoupés sur des figures sociales qui, étant atteintes par une faible insertion sociale, ne pourraient pas être jugées avec équité à partir des principes du rite ordinaire. Assurant une tutelle par rapport aux discriminations opérées par le droit positif, cette justice fait face à un problème central que les sociétés d'Ancien Régime se sont trouvées à affronter. Comment faire coexister un principe d'équité avec la pulvérisation de normes locales? Or, la légitimation des pratiques sociales présentées en justice en tant que source du droit a été une tentative de réponse à cette interrogation. Et donc, nous voilà confrontés à une nouvelle définition de ce qui distingue les étrangers. Le caractère le plus marquant que le droit commun d'Ancien Régime prend en compte est bien leur ignorance des normes locales. Pour ces ignorants des normes locales, un espace particulier a été créé où ces normes sont suspendues et une pleine légitimité est attribuée à l'accord des parties sur les pratiques sociales. L'articulation entre justice ordinaire et justice sommaire nous introduit ainsi à une caractéristique très importante du droit d'ancien régime. La coexistence d'une pluralité de manières également légitimes, non pas de concevoir la vérité, mais plutôt de pouvoir l'atteindre. Le pluralisme juridique témoigne de cette attention aux conditions sociales des individus qui fait la factualité du droit commun. Il n'est donc pas une maladie infantile du droit, comme souvent a été désigné, mais plutôt l'expression de sa richesse. Les individus doués d'un statut juridique plein et enracinés dans un réseau social, ou bien les personnes à plusieurs titres ignorant des normes, pourront, idéalement au moins, mettre en avant leur raison dans des systèmes procéduraux qui prennent en compte la présence ou bien le défaut de ressources auxquelles ils peuvent avoir accès. Les deux procédures dessinent donc des horizons de légitimité différentes. Le support de la communis opinio locale, accompagné des supports fournis par la responsabilité judiciaire in solidum, et d'autre part, pour les étrangers, la solide légitimité des pratiques reconnues qui s'accompagnent des engagements religieux qui se sont déroulés sans contradiction. Or, c'est donc le témoignage de la grande richesse du droit d'ancien régime qui tient à sa capacité à prendre en compte un large éventail de situations sociales, qui est caractérisée donc moins par la capacité à exclure qu'à celle d'inclure en son sein et de régler le plus grand nombre possible de situations. Et son pouvoir est bien assis sur cette capacité. C'est donc un droit où les étrangers, ignorant les normes locales, pouvaient prétendre à une égalité vis-à-vis des locaux. Et je pense que là, nous avons quelque chose à apprendre du passé. Merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup. On fera le débat à la suite de la discussion. Donc je vais laisser la parole à Serge Lama, sachant que le trait, même si on va changer à la fois d'époque et de territoire, le trait commun, ce qui va nous rattacher à l'intervention de Madame Cerruti, va être évidemment cette idée de, à la fois de ce qu'est l'étranger et surtout de la façon dont il va être traité. Et la façon dont il devrait être traité et la façon dont il va être traité en réalité, puisque Serge Lama, qui est maître de conférence à l'Université de Paris 10 Nanterre, spécialiste des droits et des libertés fondamentales, contrairement à ce qui était indiqué sur le programme, va nous parler des pratiques de l'injusticiabilité du droit des étrangers à Mayotte. Je lui laisse la parole.
Je remercie les deux organisatrices, Laetitia Brunin et Lior Israël, de l'invitation. Alors j'ai deux points communs avec le ministre qui est parti. Enfin, il y a un ministre qui n'est pas là et l'autre qui est parti. C'est que d'une part, je ne suis pas philosophe, je suis juriste. Et d'autre part, comme lui, bon, je n'ai pas de CDD de garde des Sceaux, rassurez-vous, mais je suis maître de conférence en droit public, donc à Nanterre, comme ça vient d'être dit. Alors je ne sais pas exactement si c'est dans cette casquette-là que je suis aujourd'hui, puisque je vais vous parler vraiment des pratiques de l'injusticiabilité à Mayotte, donc de ce qui se passe actuellement à Mayotte en droit des étrangers, qui est vraiment, alors pour le coup, l'archétype d'un droit frontière, d'un droit d'exclusion d'un certain nombre de catégories de personnes sur un territoire au nom de la frontière ici du national, en fait, de ce qui est le national et de ce qui est l'étranger. Alors cette première image, bon, il y a une erreur, on n'est pas à 11h45, pas encore, je me suis trompé de table ronde, mais pour le reste, l'image qu'on voit derrière, c'est des personnes qui sont réunies place de la République, parce qu'elles ont été chassées de chez elles. Ce sont essentiellement des Comoriens. Beaucoup ont des papiers, beaucoup ont des enfants français. Et par des émeutes xénophobes qui se passent actuellement à Mayotte, ces personnes doivent quitter leur domicile et se retrouver démunies, comme vous le voyez, protégées par les forces de l'ordre, avec tout de même une assez grande passivité de l'État actuellement. Et c'était ça qui était intéressant d'avoir le garde des Sceaux pour lui dire que l'État devrait peut-être agir pour éviter qu'au XXIe siècle, il y ait des émeutes xénophobes quelque part sur le territoire français. Alors justement, on va voir ce contexte maoré avant de voir vraiment la question de la justiciabilité. Comme je l'ai dit, c'est plus comme militant associatif ou comme expert de ces questions-là que je connais ça, puisque j'ai été plusieurs fois à Mayotte pour faire des formations en droit des étrangers, souvent pour Médecins du Monde, Logistie ou d'autres organisations. Et par ailleurs, j'ai fait pas mal de contentieux, j'ai participé à pas mal de contentieux, souvent là aussi dans le cadre de collectifs associatifs. Donc ma connaissance du terrain est essentiellement liée à cette activité associative, même si j'ai un regard d'universitaire. Mais là, je ne vais pas faire une analyse théorique, je vais vraiment décrire la situation telle qu'elle existe à Mayotte et telle qu'on a organisé une injusticiabilité du droit des étrangers à Mayotte pour maintenir une partie d'une population en dehors du droit. Et c'est tout de même comme on va voir un tiers de la population. Donc ça, c'est le contexte actuel. Comme vous voyez, c'est le phénomène de décasage, c'est-à-dire on est en train de... Un certain nombre de ressortissants maoris sont en train de détruire des maisons de Comoriens pour essayer de les chasser du territoire. Et il y a des manifestations régulières. Donc, vous voyez, il y a une manifestation prévue le 5 juin 2016, dans quelques jours, qui n'est pas encore interdite par les pouvoirs publics. Donc, d'ailleurs, il y a un projet de référé liberté pour la faire interdite, puisque c'est même une manifestation ouvertement xénophobe. Vous voyez, il suffit de lire les tracts, on voit très bien ce qui est demandé. Et dans les lettres, enfin, vous ne le voyez pas très bien, mais il est demandé, par exemple, une interdiction de séjour d'une durée de 5 ans pour n'importe quel Comorien, une suspension de leur permis de conduire ou l'interdiction de toute activité professionnelle donc pour les Comoriens sur l'île de Mayotte. Donc c'est le genre de revendication de ces collectifs qui se forment actuellement sur le territoire de Mayotte. Ça donne ça aussi, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le décasage des Comoriens, c'est-à-dire la destruction de l'habitat, y compris parfois des Comoriens, soit qui sont français de naissance, soit pour certains qui ont des titres de séjour. Donc ce n'est pas forcément lié au phénomène. Il y a beaucoup de sans-papiers, évidemment, à Mayotte, mais pas nécessairement des sans-papiers qui sont visés et les forces de l'ordre qui doivent accompagner les populations pour les protéger. On l'a vu jusqu'à la place de la République. Donc vous voyez le contexte actuel dénoncé par pas mal d'autorités, notamment le défenseur des droits ou Médecins du Monde qui est présent sur place depuis assez longtemps et une assez grande passivité de l'État actuellement pour interdire ces manifestations xénophobes puisque la priorité, on va le voir, c'est de reconduire les sans-papiers. Il y a un certain nombre de manifestations organisées notamment par la Ligue des droits de l'homme de revendications de ces populations de pouvoir rester sur le territoire. J'étais à plusieurs reprises à Mayotte et j'ai été vraiment marqué par le phénomène que c'est une seule population avec la même origine, la même langue, les mêmes coutumes, etc. Mais qu'on a créé, en posant une frontière entre l'île de Mayotte et les autres îles comoriennes, on a créé vraiment une distinction fictive entre ces populations. Et aujourd'hui, on est en train d'attiser ça. Alors en fait, les Comoriens installés à Mayotte ont des liens très forts avec Mayotte depuis très très longtemps. Beaucoup ont des conjoints français ou des enfants français. La plupart résident depuis très longtemps sur le territoire maorais, ont des activités sur ce territoire, mais on est en train de les exclure d'absolument tous les droits, de les reconduire massivement et donc de les priver de droits et aujourd'hui de logement. Donc là, c'est des manifestations d'enfants comoriens, mais qui sont nés sur le territoire français, qui seront français à l'âge de 13 ans et qui dit on est français, on a un droit légitime à rester sur ce territoire maorais. Alors la réaction des pouvoirs publics, il y a eu un communiqué tout de même du ministre de l'Intérieur et du ministère de l'Outre-mer par rapport à l'ensemble de ces événements. Et l'action de l'État, c'est essentiellement de renforcer la sécurité sur le territoire et de développer encore plus les reconduites à la frontière, d'essayer de battre le record de 20 000 reconduites à la frontière par an. Ce qui, on le verra tout à l'heure, il y a un record du monde en termes de reconduites à la frontière sur un territoire aussi petit par rapport à la population. Donc vous voyez, c'est le communiqué de presse des deux ministères où la priorité absolue, c'est avant tout de renforcer la sécurité. Alors, une petite mise en perspective pour ceux qui ne connaissent pas trop bien Mayotte. C'est assez important d'un point de vue géographique. Mayotte est dans l'océan Indien, pas loin de Madagascar. C'est une île relativement isolée, entourée d'une barrière de corail. Ça, c'est important par rapport à l'arrivée des Kwassas. Il y a un certain nombre de dates. Je ne vais pas avoir le temps de tout montrer, mais je vous rappelle qu'il y a un référendum relativement récent, en 1974, qui est d'indépendance de trois îles, et la quatrième île a été maintenue dans le territoire français, un peu de manière fictive, contraire au droit international d'ailleurs, puisque normalement, lorsqu'il y a une indépendance, c'est l'ensemble du territoire qui prend son indépendance, mais les Français ont maintenu Mayotte dans la République française, avec une évolution progressive vers la départementalisation qui a eu lieu il y a quelques années. Et donc, au fur et à mesure, il y a eu un certain nombre d'événements, peut-être le plus événement, j'en reparlerai, c'est l'instauration du visa baladur, c'est-à-dire au moment de l'indépendance, on maintient un régime de liberté de circulation, un peu comme au moment de l'indépendance de l'Algérie. D'ailleurs, on avait maintenu une liberté de circulation entre la France et l'Algérie. Et puis, Balladur, en 1994, le gouvernement Balladur instaure un visa, une obligation de visa pour les Comoriens pour pouvoir se rendre sur l'île de Mayotte. Et autre date relativement importante, c'est à partir de 2002-2003, c'est le développement d'une politique de reconduite à la frontière assez, dans le cadre des quotas, hein, des quotas assez connus de Nicolas Sarkozy, du ministre de l'Intérieur à l'époque, qui ont développé fortement les reconduites à frontières. En quelques années, on est passé de quasiment pas de reconduites à frontières à 12 000, puis jusqu'à 20 000 reconduites à frontières. Et une autre spécificité, j'en reparlerai, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui sont reconduits à frontières. Normalement, les enfants isolés ne peuvent pas être reconduits à frontières ni placés en rétention administrative. À Mayotte, c'est un phénomène massif et quotidien. La reconduite à frontières des enfants, ça représente jusqu'à 3 500 à 4 000 enfants qui sont reconduits chaque année. Donc voilà l'archipel de Mayotte avec cette fameuse barrière de corail qui est assez importante puisqu'il est difficile d'arriver sur l'île de Mayotte, surtout qu'il y a des radars et donc il y a un certain nombre de décès. Il y a énormément de décès dans ces embarcations. On le reverra, il y a à peu près 10 000 décès chaque année. Et la plupart des Kwassas sont interceptés par les forces de police en raison des radars, puisqu'on a développé toute une technologie pour pouvoir empêcher les passages. Les distances, rapidement, entre la principale île, l'île d'Anjouan et Mayotte, c'est 115 km, donc qui est traversée en Kwassa par les populations. On verra, il y a énormément de passages chaque année. Alors, pour évoluer, il y a un bilan récent de la Cour des comptes sur la départementalisation. Comme je l'ai dit, Mayotte est devenu un département d'outre-mer il y a relativement peu de temps. Il y a un premier bilan qui a été dressé. Bilan plutôt critique et dressé par la Cour des comptes, surtout au regard des enjeux auxquels Mayotte est confrontée. D'abord, enjeu principal, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce phénomène d'immigration assez importante. À Mayotte, alors on a du mal à les compter, mais il y aura entre 50 et 60 000 personnes sans papier. Il y a une large partie de la population qui est comorienne par rapport à une population d'environ 200 000 habitants. Donc vous voyez qu'en termes de proportion, s'il y a 50 à 60 000 sans-papiers sur cette île, c'est un phénomène assez important. Mais attention, moi par expérience, ayant fait des consultations juridiques là-bas, les gens qui sont sans-papiers là-bas ont souvent des enfants français, des conjoints français, des attaches assez longues sur le territoire. La plupart de ces personnes, en fait, si elles étaient sur le territoire métropolitain, elles auraient des papiers. On a entretenu cette population dans l'irrégularité du séjour. Il y a évidemment un phénomène fort d'attractivité, ça paraît évident. Il y a un territoire comorien qui est dans un grand désordre politique constant, que la France a souvent entretenu, d'ailleurs, d'un point de vue historique, et qui est évidemment beaucoup moins riche que le territoire mahorais, toute proportion gardée, puisque Mayotte n'est pas non plus une île très riche. Et le différentiel de niveau de vie entre les deux pays fait qu'évidemment, il y a une attraction qui est créée par le territoire mahorais par rapport au reste de la population. Grand différentiel en termes de structure de santé, et on sait que l'hôpital de Mayotte a une activité très importante, d'accès au travail ou surtout d'accès à l'éducation, puisque ici, le gouvernement français a développé tout de même pas mal de collèges et de lycées sur cette île, et donc on scolarise. Donc forte attractivité de Mayotte, c'est ce que je viens de dire, en termes de PIB, je passe un peu vite. Forte attractivité démographique aussi, puisque l'Union des Comores, c'est 750 000 habitants. Mayotte, c'est 200 000 habitants à peu près actuellement, avec un grand différentiel de produits intérieurs bruts, de PIB, pardon. Il faut tout de même voir qu'une partie de la population française mahoraise, quitte le territoire de Mayotte pour aller à La Réunion ou en métropole. Donc en fait, il y a un phénomène de compensation de l'immigration comorienne pour une émigration mahoraise vers la métropole ou essentiellement La Réunion. Notamment parce que pour l'instant, il n'existe pas réellement, il y a une protection sociale qui a été créée à Mayotte récemment, mais il n'existe pas encore de minima sociaux, en tout cas accessibles à la majeure partie de la population. Donc notamment la question du RSA ou des allocations logement qui existent désormais à Mayotte, mais qui sont encore difficilement accessibles au regard des normes nécessaires pour pouvoir en bénéficier. Surtout, le problème de fond, toujours dans ce contexte, c'est l'augmentation du nombre d'habitants. Vous voyez là, c'est la courbe qui est dans le rapport de la Cour des comptes. L'évolution de la population est assez importante depuis 1958 et continue à être assez importante. Il y a des projections démographiques qui évalue que la population mahoraise, donc qui sera à peu près à plus de 200 000 aujourd'hui, pourrait aller à 350 000 en 2030 et à 500 000 en 2050. Donc forte évolution, avec aussi, dans les perspectives, une très forte augmentation prévisible de la population d'étrangers et de sans-papiers, comoriens. Sachant que, je ne l'ai pas encore dit, mais les phénomènes, les systèmes de naturalisation, d'accès même à des titres de séjour, sont extrêmement complexes à Mayotte, et donc c'est aussi pour ça qu'il y a un amende sans papier. Vous voyez ici dans la projection il y aurait jusqu'à actuellement 84 000 Comoriens sur l'île de Mayotte, plus des dizaines de milliers de sans-papiers, on ne sait pas exactement combien. Donc si vous faites ça par rapport à la population, même si on prend 240 000, vous voyez qu'une partie importante en fait, de la population à Mayotte est en réalité comorienne et une partie sans-papiers. Donc on voit le phénomène massif qui se pose. Je continue donc sur la question principale, une fois qu'on a vu un peu ce contexte qui me paraissait important pour bien expliquer ce qui se passe. La réaction de la France par rapport à cette situation n'a pas été d'essayer de développer un régime de liberté de circulation entre les îles, et pourtant il existe historiquement, ça a toujours existé dans l'histoire des quatre îles comoriennes. Ça n'a pas été d'essayer de négocier par exemple une convention internationale avec les Comores, bon, ce qui n'est pas facile non plus puisque les Comores ne reconnaissent pas Mayotte comme partie du territoire français. Donc ça n'a pas été essayé d'avoir des solutions comme ça, mais ça a été au contraire d'ériger des frontières absolues, frontières au sein de la population de Mayotte. On a vu, il y a les Comoriens et il y a les Mahorais, et les Comoriens n'ont pas accès aux droits, les Mahorais ont accès, sont dans un phénomène d'assimilation de plus en plus forte aux Français, à la départementalisation, etc. Donc on distingue vraiment très fortement les deux populations, et surtout on essaye d'en reconduire un maximum chaque année, donc on bat les records chaque année, y compris des enfants isolés, en dehors de tout cadre juridique. Et tout ça couvert par les juridictions. Je vais vous montrer que le contrôle juridictionnel est totalement insatisfaisant et ne respecte pas les normes internationales, notamment exigées par la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc on est dans ce phénomène un peu surréaliste où chaque année, on éloigne entre 15 et 20 000 personnes, alors, sachant qu'il y aurait 60 000 sans-papiers, donc c'est tout de même un tiers des sans-papiers qui, chaque année, sont éloignés. Et pourtant, le nombre de sans-papiers est à peu près le même chaque année sur cette île. Donc c'est exactement le même phénomène que pour les Roms, Roumains ou Bulgares sur le territoire métropolitain, c'est-à-dire on reconduit des gens qui, de toute façon, le réservoir se remplit sans arrêt au moment où on le fait. Donc c'est une politique complètement vaine et qui développe une militarisation très forte des systèmes d'éloignement. Enfin, vraiment, c'est des systèmes militaires qui sont utilisés pour renvoyer les sans-papiers de l'île. Donc systématisation des éloignements, comme je l'ai dit. Chaque jour, la police aux frontières où les gendarmes interpellent des Kwassas, et le nombre de Kwassas est important. Il y a énormément de morts, c'est important de le dire. Le visa baladur crée des morts. On évalue, même si on a du mal à les compter, bien évidemment, à 7 à 10 000 morts depuis 1995 dans l'océan Indien liés à ces phénomènes de passage, puisque ça peut être relativement dangereux en raison des barrières de corail et de ce qui est utilisé, les Kwassas qui sont utilisés pour traverser. Le nombre d'interceptions ne cesse d'augmenter. Là, vous avez une courbe dans le rapport de la Cour des comptes qui vous montre qu'on a passé, en termes d'interceptions, de 416 interceptions en 2012 à plus de 600, enfin à peu près 600 en 2014, et ça continue à augmenter. C'est-à-dire qu'il y a une efficacité de plus en plus grande des services de police en termes d'interception des Kwassas, ce qui va ensuite permettre d'augmenter les reconduites à la frontière. Justement, l'évolution des reconduites à la frontière, C'est un certain nombre de statistiques qui sont produites par les autorités locales, ici par la préfecture. On voit qu'il y a une augmentation constante des reconduites à la frontière entre, alors la première date, là on n'a pas les chiffres, mais c'est 2003, le début de l'augmentation. On est passé rapidement à 10 000 reconduites à la frontière chaque année. Et puis on a atteint un sommet de 20 000 en 2010. Il y a une petite baisse depuis chaque année, depuis 2010. Mais la courbe est en train de remonter dans l'autre sens. Vous avez vu tout à l'heure qu'on est à 18 000 en 2015. On devrait à nouveau être dans les 20 000 cette année, en 2016. Sachant que la particularité, c'est qu'il y a un taux d'exécution extrêmement fort. Alors pour ceux qui connaissent un peu le droit des étrangers en métropole, vous savez peut-être que à peu près une OQTF, on appelle ça comme ça aujourd'hui, obligation de quitter sur le territoire français sur trois est exécutée, en moyenne 30% en métropole. Or, à Mayotte, le taux d'exécution est quasiment de 100%. Donc, c'est assez révélateur, en fait, qu'il y a une injusticiabilité quasi totale, puisque, en fait, il n'y a pas de recours effectif sur l'île de Mayotte. Et puis, l'autre particularité, qui est vraiment une grande spécificité mahoraise et qui n'existe nulle part ailleurs en métropole, c'est l'éloignement des enfants. C'est-à-dire, parmi ces reconduites à frontières, il y aurait, ça dépend des années, entre 3 500 et 5 000 enfants renvoyés. Alors parfois avec leur famille, ce qui là est possible en métropole, mais la plupart du temps de manière isolée. Ce sont des enfants isolés qui sont envoyés, rattachés fictivement à des adultes ou dont la police trafique l'état civil. Je vais vous le montrer, hein, j'affirme ça. Et ça, c'est vraiment une grande, grande spécificité mahoraise de pouvoir envoyer les mineurs, alors que ce n'est pas prévu par le droit. Donc là, c'est les statistiques de l'éloignement, donc c'est à peu près la même. Il y avait les statistiques des mineurs, je passe un peu vite pour passer. Simplement pour comparer à d'autres territoires, quand on compare à d'autres territoires métropolitains, ou d'outre-mer, pas par rapport à la métropole, mais à l'outre-mer, à part en Guyane, où il y a tout de même un nombre de reconduites assez important, à peu près 9 à 10 000 chaque année, il y a eu un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme des César Ribeiro qui a un peu limité le phénomène. Vous voyez que Mayotte dépasse très largement, en termes de reconduite, l'ensemble de, à la fois des territoires d'outre-mer, où le même droit s'applique, mais aussi la métropole, puisque vous savez qu'en métropole, il y a à peu près 18 000 sans-papiers qui sont renvoyés chaque année. Et donc vous voyez que Mayotte fait aussi bien que l'ensemble de la métropole et que l'ensemble des centres de rétention et des préfectures réunies. Donc aussi bien ou aussi mal, selon le point de vue où on se place, mais en tout cas, la même efficacité en termes de reconduite. Alors donc, j'ai essayé de calculer. Pour moi, c'est le record mondial des reconduites à frontières. J'avais trouvé des chiffres pour l'Arizona. L'Arizona, il y a 126 000 expulsions chaque année en 2012 pour les chiffres que j'avais trouvés. Pour 6,5 millions d'habitants, ça fait à peu près 2% de la population qui est reconduite chaque année. À Mayotte, il y avait, l'année où j'ai trouvé, 16 000 reconduites à frontières chaque année pour une population de 200 000, un peu plus aujourd'hui habitants. Ça fait 7% de la population qui, chaque année, est éloignée du territoire. Donc vous voyez, c'est considérable, surtout à la métropole, où on renvoie à peu près 30 000 étrangers chaque année pour 60-65 millions d'habitants. Donc vous voyez, les proportions sont vraiment très très fortes à Mayotte. En revanche, le contentieux est extrêmement faible. En fait, il y a une seule avocate à Mayotte qui fait du droit des étrangers, réellement, Marjane Gaëm, qui est une ancienne du Master Droit de l'Homme de Nanterre, d'ailleurs, formée par Daniel Lochac. C'est la seule qui fait des recours là-bas. Le nombre de référés total, bon là c'est un tableau de la préfecture, mais le nombre réel de référés liberté, qui sont les seules procédures qui pourraient aboutir à empêcher un éloignement, c'est 47 dans l'année 2013, 47 référés sur un total de, vous avez vu, plus de 20 000 ou 15 000 selon les années, 15 à 18 000 selon les années, sachant qu'il y a énormément dedans de mineurs, et l'essentiel des recours porte sur des mineurs, qui sont interceptés dans les Kwassa et qui vont être envoyés. Donc je vais vous prendre, dans le peu de temps qui me reste, deux exemples, deux illustrations concrètes de reconduite de mineurs, deux dossiers qui ont été suivis à la fois par le Défenseur des droits, les associations de migrants outre-mer, et qui sont des dossiers de Marjane Gaëm. Alors l'affaire Ali Mondji, par exemple, vous voyez, c'est un jeune, j'insiste sur la date de naissance, elle est importante, l'affaire date d'il y a quelques années, il est né en 1999, donc il avait 16 ans à l'époque, 15 ans, c'est important de le voir, il était en 5e, mineur qui était parfaitement connu de l'île, puisque c'est un mineur qui avait pas mal de difficultés, on va voir sa mère et à la protection subsidiaire suite à un conflit familial, et donc il a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, donc ça veut dire que les juges le connaissent parfaitement sur l'île, les policiers le connaissent parfaitement, ils connaissent son âge et savent qu'il est scolarisé. Donc vous voyez là, ça confirme son âge, 99, mesure éducative, donc c'est bien le même mineur, c'est bien le même dossier. Et là, il est interpellé à la suite d'une affaire de portable, à la sortie de l'école, peu importe. Il est interpellé par la police, et vous voyez que la police française fait un procès-verbal dans lequel il est né le 1er janvier 1995. Comme par magie, il a pile 18 ans. Bon, ce que j'appelle truquer un procès-verbal de police. Donc il est comorien, il n'aurait pas d'attache familiale en France, etc. Et donc il peut être reconduit à frontière puisqu'il est majeur officiellement pour la police, sans aucune, alors même qu'il a dans son cartable l'ensemble des justificatifs qui prouvent qu'il est mineur. Donc il fait l'objet d'une reconduite à la frontière décidée par la préfecture. Et pourtant, sa mère bénéficie d'une protection subsidiaire. C'est un statut subsidiaire à la Convention de Genève pour ce qui s'est passé aux Comores. Et donc l'enfant, en réalité, a aussi cette protection subsidiaire par le principe d'unité de famille. Ça n'empêche pas de reconduire l'enfant, de tenter de le reconduire. L'avocate dont j'ai parlé fait un référé liberté. Le problème, c'est que comme il n'y a pas de recours suspensif à Mayotte, c'est pas suspensif de plein droit de saisir le juge, eh bien, l'enfant est renvoyé avant que le juge se prononce. Le juge constate bien qu'il y a une atteinte à la vie privée et familiale dans cette ordonnance qui est rendue, mais se considérant vaut tout de même son pesant de cacahuètes, considérant que la présente ordonnance n'implique pas que le préfet organise le retour de l'intéressé à Mayotte. Donc vous voyez un jeune mineur qui risque des mauvais traitements puisqu'il est en fait réfugié, enfin protégé subsidiaire par l'intermédiaire de sa mère, et renvoyé du territoire français en toute illégalité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez vu que le procès verbal est truqué, toute la procédure est fictive. Et le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte se contente de dire voilà, la préfecture devra prendre juste attache avec le consulat pour essayer de le faire revenir si possible. L'affaire est portée au Conseil d'État, jurisprudence de Mathias Guillemard, le 19 février 2014, où le Conseil d'État, de la même façon, estime qu'il n'a pas le pouvoir de faire revenir l'enfant. Tout au plus, le ministère s'est engagé à l'audience à essayer de le faire revenir. Ce qui, effectivement, va avoir lieu grâce aux défenseurs des droits, au HR qui a été saisi, à pas mal d'autorités qui sont intervenues et au suivi constant des associations. Et c'est un des seuls gamins qu'on a fait, enfin, que les associations ont réussi à faire revenir après tout de même avoir saisi le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme en mesure provisoire. Donc c'est l'armada absolue. Je vais finir, puisque j'ai plus le temps, sur le deuxième cas. Alors, je le mets en rose parce que c'est une fille, mais la police n'était pas aperçue que c'était une fille de 5 ans. Donc, ils n'avaient même pas le sexe de l'enfant. Alors, c'est à peu près le même type d'affaire. C'est une Kwassa. Alors là, pour le coup, elle n'était pas sur l'île. Elle arrivait en Kwassa. C'est un deuxième cas. Donc, trois enfants arrivent dans une Kwassa affectée au hasard à un adulte. En fait, c'est simple, le système. C'est que l'adulte qui prend les enfants a une réduction pour le prix de la Kwassa. On sait que ça marche comme ça. Donc il n'y a aucun lien, hein, j'insiste, aucun lien entre l'adulte référent et la gamine. Il y a deux des gamins dont les parents sont à Mayotte qui se manifestent, et là, la police va les libérer. Mais la troisième gamine, ici, vous voyez, Bakar Dalma, 5 ans, elle est maintenue en rétention et mise en reconduite à la frontière avec l'adulte référent, l'adulte de hasard, pas du tout les parents, ni un représentant légal, ni rien du tout. Marjane Ghaem réussit à faire un référé liberté, alors même qu'elle a, normalement, elle ne pourrait pas, parce qu'elle n'a pas d'interagir pour l'enfant, mais elle le fait tout de même, prévenue par des proches. Alors, notamment, cette affaire est très particulière, puisque au moment de l'audience, il y avait une représentante de l'ANAFE et une représentante de la CAT, et toutes les deux ont témoigné de ce qui s'est passé à l'audience au tribunal administratif. Donc, gamine de 5 ans, audience vidéo. Vidéo, donc le magistrat il est à La Réunion, il n'y a même pas à Mayotte. Il y a juste une greffière, pas d'interprète alors que l'enfant ne parle pas français, pas de Cochin Bahoré. Juste l'avocate qui la représente, mais l'avocate ne connaît pas l'enfant, elle a juste déposé un référé à la demande d'un tiers. Pas d'administrateur ad hoc, personne pour représenter l'enfant. Et à un moment donné, le juge pose une question à l'enfant et c'est la greffière qui traduit. Donc c'est tout de même assez étrange comme justice rendue. Le magistrat estime, pose des questions à l'adulte qui est renvoyé, et l'adulte, à un moment donné, on lui fait dire oui, je veux bien reprendre l'enfant avec moi pour le remettre à ses parents. Donc, ce n'est même pas les parents, c'est les grands-parents, mais ils se trompent dans le jugement du tribunal administratif. Ça, c'est la justice française aujourd'hui des étrangers. Vidéoconférence, pas d'interprète, traduction par un greffe, une gamine toute seule qui est représentée par personne. Normalement, la gamine devrait être placée à l'ASE et avoir un administrateur ad hoc. La loi, c'est ça. Mais à Mayotte, évidemment, ils n'ont pas le temps. Si on veut faire 20 000 reconduites à la frontière par an, on ne peut pas respecter les procédures. Le tribunal administratif de Mayotte est saisi. Il va rejeter, comme on l'a vu, la requête immédiatement, en application d'une jurisprudence pourtant relativement protectrice du Conseil d'État, d'un arrêt qu'on a obtenu le 9 janvier 2015, où normalement, la préfecture doit vérifier le lien entre l'adulte et les enfants. Il doit y avoir un lien objectif et établi, etc. Là, il n'y en avait aucun. Pourtant, le Conseil d'État est saisi en appel, et en appel, il trie, c'est-à-dire il n'y a pas d'audience au Conseil d'État, il y a un tri du recours de Marjane Ghaem, le Conseil d'État dit que dès lors que l'adulte s'est engagé à remettre l'enfant à une grand-mère de l'autre côté, c'est bon, le lien est établi. Alors, évidemment, ce n'est pas un lien légal, ce n'est pas un lien suffisant pour pouvoir reconduire un enfant. Donc vous voyez, c'est une ordonnance très récente, hein. Vous voyez ce que ça donne au Conseil d'État, ce type d'affaires où c'est validé par le Conseil d'État. Il y a eu 6 ou 7 dossiers portés au Conseil d'État, et ça n'a jamais marché pour l'instant, à part le premier cas que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui était très spécifique, puisqu'il y avait un protégé subsidiaire dans l'histoire. Donc ça montre qu'en fait, il n'y a pas de justiciabilité du droit des étrangers à Mayotte, ça ne fonctionne pas. Alors certes, il y a un recours, désormais, le référé liberté va être suspensif en vertu d'une nouvelle loi, la loi du 7 mars 2016, mais même ce nouveau recours qui a été instauré par la loi du 7 mars 2016 ne respecte pas les prescriptions de la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt qu'on a obtenu sur la Guyane, qui s'appelle De Souza Ribeiro, où très clairement la Cour européenne des droits de l'homme estime que le recours devrait être de plein droit suspensif, comme ça existe d'ailleurs en métropole. quand un étranger, notamment un demandeur d'asile ou des mineurs ou d'autres, font l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, le seul fait de saisir le juge empêche l'éloignement le temps que le juge se prononce. C'est la moindre des choses dans un état de droit. Eh bien ça, ça n'existe pas à Mayotte, même après la loi du 7 mars 2016. Donc c'est pour ça que vous voyez que la justicialité du droit des étrangers, elle est quasiment nulle. Il n'y a pas d'avocat qui s'occupe d'étrangers à Mayotte, sauf une. Les recours ne sont pas suspensifs. Les magistrats sont vidéoconférences. Enfin, vous voyez, on est tout dans un contexte qui organise, en fait, l'injusticiabilité du droit des étrangers pour maintenir cette politique du chiffre où on éloigne de manière absurde entre 15 et 20 000 personnes chaque année, dont 3 500 à 5 000 enfants. Voilà sur le contexte mahorais.
Alors, je vous remercie beaucoup. Je pense que ça va poser des questions tout à l'heure. Mais sans plus tarder, on va continuer dans le fil, hein, finalement, qu'on a depuis le début jusqu'à maintenant, qui est la question, pour le moment, de la fragilité, finalement, de l'étranger dans le passage, enfin, ou de la victime, on va voir, dans le passage de la frontière, et de son rapport avec les institutions. Donc on va continuer dans cette veine-là, avec l'intervention de Mathilde Darley, qui est chargée de recherche au CNRS, à la fois dépendante du CESDIP et du centre Marc Bloch. Même si elle va faire intervenir aussi, finalement, un autre acteur, un intermédiaire supplémentaire, si je ne me trompe pas. Donc je laisse immédiatement la parole pour nous parler de la question de la traite des étrangers, en particulier de la traite des femmes et du proxénétisme.
Alors, d'abord, moi aussi, je remercie vivement les organisatrices de cette journée et puis les intervenants et intervenantes qui m'ont précédée pour leur présentation très stimulante. Je vais présenter aujourd'hui un projet qu'on a intitulé « Proscrime, la traite des êtres humains saisis par les institutions, une comparaison France-Allemagne », qui est un projet que je coordonne avec une collègue allemande, Rebecca Peitz, de l'Université de Leipzig, et qui est financée du côté français par l'ANR, du côté allemand par son équivalent, la DFG. Et c'est un projet en cours, donc je tiens à préciser qu'on est encore en phase de collecte des matériaux et que ce que je vous présenterai, ce sera plus des pistes d'analyse que véritablement des résultats. Ce que je pourrais peut-être dire en guise d'introduction pour situer un petit peu mon propos, c'est que en l'espace d'une décennie, en gros entre le début des années 1990, le tournant des années 2000, la traite des êtres humains est devenue un enjeu international majeur. Et on pourrait presque dire que l'incertitude qui entoure l'ampleur du phénomène, on a tout un tas d'estimations d'organisations internationales notamment, mais qui varient en fait de 700 000 à 4 millions de victimes par an, puisque c'est un phénomène par définition très difficile à quantifier. Finalement, cette incertitude autour de l'ampleur du phénomène n'a d'égal que le nombre des acteurs qui ont pris part à sa qualification normative et juridique et à la formulation de politiques de lutte contre la traite des êtres humains. Alors, sans doute que cette mise à l'agenda très rapide, en fait, à l'échelle aussi bien nationale qu'internationale de la traite des êtres humains s'explique au moins en partie par le fait qu'elle apparaissait comme un espace où on pouvait poursuivre d'autres débats contemporains. Et je pense notamment aux débats relatifs à la question migratoire, aux nouvelles migrations internationales, mais aussi à la prostitution. Puisque le débat social qui constitue un petit peu la toile de fond de cette production normative et juridique très importante sur la question de la traite, et en particulier de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, se caractérise par ses antagonismes. On pourrait dire, pour reprendre les mots d'un chercheur ayant travaillé sur la question, que la traite est prise dans des sex wars, dans des guerres autour de la question de la sexualité, qui voient s'affronter deux courants, oppositions a priori inconciliables. On a d'un côté celui des féministes abolitionnistes, qui donc appréhendent la prostitution en termes de violence à l'encontre des femmes, et de l'autre celui des féministes d'inspiration libérale, qui revendiquent au contraire la liberté de disposer de son corps. Et en fait, ce clivage se retrouve parmi un certain nombre de travaux disponibles sur la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle en sciences sociales, ce qui se traduit par la prévalence de deux corpus d'analyse. D'une part, des travaux qui s'inspirent de cette approche abolitionniste et qui mettent l'accent sur les caractéristiques sociographiques de la victime, qui est donc décrite comme une jeune femme naïve, vulnérable, qui doit être sauvée. Et dans ces travaux, on présente en général les inégalités nord-sud, le statut subordonné des femmes, mais aussi et surtout d'ailleurs la légalisation de la prostitution comme les causes structurelles d'un phénomène qu'on décrit comme la face la plus sordide de l'esclavage moderne. Et de l'autre côté, on a un second courant qui s'attache plutôt à déconstruire cette catégorie de victime qui est jugée misérabiliste, condescendante, et qui lui substitue celle de prostituée migrante à qui les États dénient le droit d'émigrer et d'exercer librement ce que ces femmes considèrent comme un métier légitime. Et donc pour les tenants de cette seconde approche, la condition subordonnée de ces femmes est au contraire plutôt le résultat des politiques restrictives qui auraient été adoptées, notamment dans les pays occidentaux, en matière d'immigration et de régulation de la prostitution. En fait, ce qui transparaît dans ces deux types de corpus, c'est la tension, dont on pourrait dire qu'elle est finalement inhérente aux politiques de lutte contre la traite, entre deux formes de légitimation de l'action. D'une part, un discours humanitaire, dans lequel la traite est avant tout appréhendée comme une menace pour le corps des femmes, et d'autre part, le discours sécuritaire qui associe la traite à la criminalité transnationale organisée et qui, de ce fait, appréhende le problème en termes de menace pour la souveraineté des États. Et cette tension, elle se traduit par une double dynamique, à la fois de compassion croissante à l'égard des victimes de la traite et d'hostilité déclarée à l'encontre des réseaux criminels qui organisent la traite à des fins de prostitution. Avec une image de la victime innocente en proie au réseau de proxénètes qui justifie finalement le déploiement d'une politique caractérisée par le renforcement du contrôle aux frontières et la lutte contre l'immigration clandestine. Quand on a dit tout ça, il reste le constat que faire la sociologie de la traite des êtres humains et de la lutte contre la traite des êtres humains, c'est quand même avant tout se heurter d'emblée à un autre paradoxe. On a cette question de la traite qui occupe le devant de la scène internationale dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée. On a la traite qui est qualifiée de l'une des pires atteintes aux droits de l'homme puisqu'il s'agit d'être acheté, d'être vendu, d'être exploité. Mais on a finalement peu d'affaires portées devant les tribunaux et des victimes de la traite au nom desquelles on a constitué le phénomène en cause qui parle, mais des victimes qui accèdent finalement assez difficilement au statut d'ayant droit. Je pourrais illustrer ça, mais on a une grande difficulté à obtenir des chiffres en fait sur cette question, notamment parce que en général, on ne distingue pas forcément les condamnations pour traite, les condamnations pour proxénétisme. Je peux citer simplement le chiffre dont on dispose pour l'instant, qui est celui de 2013, où on avait 53 personnes qui avaient été condamnées en France pour traite des êtres humains, dont 37 pour proxénétisme. Ça illustre un petit peu. Mais c'était finalement, en tout cas, l'objet du projet que je vous présente ici, que d'interroger un peu ce paradoxe à travers une étude empirique des usages de la catégorie de victimes de la traite dans les interactions entre prostituées migrantes et acteurs ou institutions chargés à la fois de leur contrôle, de la régulation de leurs activités, mais aussi de leur prise en charge. Donc il s'agissait finalement de mettre à l'épreuve des pratiques locales cette catégorie d'action de victimes de la traite qui était énoncée par des dispositifs notamment nationaux et internationaux de lutte contre la traite. Alors, pour ce faire, on s'est inscrit dans une tradition assez classique d'ethnographie des pratiques au travers desquelles l'action publique se réalise. On a essayé d'observer, d'analyser les pratiques professionnelles en cours au sein de différentes institutions, étatiques ou non, qui jouaient un rôle déterminant dans l'identification et la labellisation des victimes. Et on en a notamment retenu trois, les associations, la police et la justice, pour essayer de comprendre comment ces institutions et leurs agents s'appropriaient ou ne s'appropriaient pas, au contact de leur public, cette catégorie de victimes de la traite, qui est donc, je l'ai un petit peu rappelé en introduction, une catégorie par définition trouble, puisqu'elle est accolée à la fois aux représentations sociales et juridiques de l'innocence bafouée et à celle de la migrante clandestine coupable de séjour irrégulier. Il y a en France une thèse qui a notamment très bien montré ce double ancrage, celle de Milena Jakšić, donc je ne m'étendrai pas sur la question. En tout cas, l'idée du projet n'était pas de s'intéresser aux victimes de la traite comme groupe social identifié, mais de mettre en lumière, au contraire, les pratiques professionnelles qui constituaient progressivement ce groupe, depuis le repérage d'une victime potentielle par les associations, à son identification formelle par la police au moment du dépôt de plainte, voire jusqu'à sa constitution en partie civile lors d'un éventuel procès. Alors, pour réaliser ces enquêtes, on a, côté français, une équipe de 8 chercheurs politistes et sociologues. On n'a malheureusement pas de juristes, ce qui, sans doute, nous permettra de creuser certains points dans le débat. Une équipe de 5 chercheurs côté allemand. Nous avons conduit de nombreuses observations, alors, notamment du travail quotidien d'accueil des personnes prostituées dans les locaux de différentes associations, aussi bien réglementaristes qu'abolitionnistes, et des observations aussi des maraudes, donc des tournées qui sont réalisées par les associations dans les lieux de prostitution et qui visent notamment, alors, entre autres, l'identification ou le repérage de potentielles victimes de la traite parmi les personnes prostituées. On a également suivi, et c'est peut-être sur ce point que j'insisterai plus aujourd'hui, une petite trentaine de procès pour proxénétisme ou traite des êtres humains, majoritairement à Paris, mais aussi notamment à Grenoble, un petit peu à Lyon. Et ces observations ont été complétées par des entretiens avec les acteurs associatifs, avec les magistrats du siège et du parquet, avec des avocats de la défense des parties civiles qui intervenaient dans les procès, avec des acteurs du ministère de l'Intérieur, du ministère des Droits des Femmes, enfin, bref, différents acteurs qui avaient été constitués en experts de la traite au niveau national et aussi au niveau européen. Et ce sont des matériaux d'enquête qu'on complète aussi par l'analyse de la production législative et des débats parlementaires qui ont lieu autour de la traite et de la prostitution en France et en Allemagne. Alors, les terrains sur lesquels on a eu des difficultés quant à l'accès, ce sont les terrains policiers, malheureusement, puisque là, on n'a pas pu réaliser d'ethnographie, malgré l'expérience d'un certain nombre d'entre nous sur d'une ethnographie du travail policier. Voilà, officiellement, en raison des attentats qui justifient le fait que la police n'accepte plus de tiers lors de son travail quotidien. L'autre limite à laquelle on travaille encore, c'est l'accès aux dossiers d'instruction clos. Là encore, les attentats font que, pour l'instant, nos interlocuteurs sont trop pris par d'autres questions pour pouvoir répondre à nos sollicitations sur ce point. C'est donc un projet comparatif. Alors, l'intérêt de la comparaison entre la France et l'Allemagne, c'est que, donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les recherches dont on dispose sur la traite et sur la prostitution prennent en général place dans des débats nationaux qui sont très clivés et dont il est assez difficile de se distancer. Et ça conduit assez souvent à attribuer, dans l'analyse des effets des politiques de lutte contre la traite, une valeur explicative assez forte, voire carrément dominante, au régime qui réglemente la prostitution. En Allemagne, on a un régime, comme vous le savez sans doute, réglementariste, où l'exercice de la prostitution est reconnu comme une activité professionnelle indépendante. Et on a souvent accusé ce régime de favoriser la traite à des fins d'exploitation sexuelle en raison d'un contrôle qu'on supposait plus lâche des conditions d'exercice de la prostitution. Alors, au contraire, du côté français, la position est officiellement abolitionniste depuis 1960. Les pratiques ont été fortement influencées, au moins entre 2003 et 2016, par la loi sur la sécurité intérieure qui avait réintroduit le délit de racolage, qui était présenté comme un des principaux moyens de lutter contre la traite et l'exploitation sexuelle. Mais les représentants associatifs, notamment, accusaient ce cadre légal d'encourager l'exploitation en invisibilisant, voire en criminalisant les victimes et en négligeant les proxénètes. Et la loi qui a été récemment adoptée a relancé le débat en abrogeant ce délit de racolage et en introduisant la pénalisation du client, mais j'y reviendrai pas ici. En tout cas, l'idée de cette comparaison entre le cas français et le cas allemand, c'était de permettre de décentrer le regard et l'analyse en interrogeant le poids du contexte juridique sur les pratiques de régulation qui étaient mises en œuvre au niveau local. Et en se demandant notamment que fait ce cadre légal de régulation des activités prostitutionnelles aux pratiques locales de contrôle et de prise en charge dès qu'on introduit la dimension migratoire du parcours des prostituées qui sont ciblées par l'action. Je vous présenterai maintenant rapidement les premières pistes de réflexion qui sont en fait les pistes sur lesquelles nous travaillons actuellement, puisque en l'état, on a surtout une somme de matériaux très conséquente et on attaque à peine le défrichage. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'était d'abord une cartographie des acteurs en présence dans la lutte contre la traite pour essayer d'analyser la configuration associative et institutionnelle en place, de retracer notamment la manière dont s'était construite la légitimité ou la centralité de certains acteurs sur ces questions de traite et les trajectoires de ceux qu'on pourrait appeler des entrepreneurs de la traite, en interrogeant les ressorts qui les avaient conduits à se saisir à un moment de leur carrière de cet enjeu. Donc ça signifie une analyse des formes d'engagement dans la thématique de la traite, en prenant en compte, bien sûr, pour les associations aussi les évolutions de leur public, mais aussi les évolutions des sources de financement, Et sur la question de la traite, ce n'est pas complètement anodin, en prenant aussi en compte les concurrences dont cet enjeu a fait l'objet, entre associations notamment, mais aussi les formes de non-engagement, puisqu'on a tout un réseau d'acteurs qui rejettent la catégorie de traite des êtres humains, donc d'associations travaillant avec des personnes prostituées, contestant l'usage de cette catégorie. Donc on a essayé d'analyser l'activité de ces entrepreneurs en matière de construction de la cause de la lutte contre la traite, en appréhendant notamment les différents dispositifs de sensibilisation qui sont très nombreux en France et qu'ils ont mis en place, et dont certaines formes assez stabilisées ont pu être observées dans le cadre de nos enquêtes ethnographiques. Donc on a assisté par exemple à de nombreuses formations professionnelles qui sont dispensées à la fois entre associations, mais aussi à destination des magistrats, à l'École nationale de la magistrature notamment, des colloques institutionnels ou associatifs, mais aussi des rapports officiels, des films, de la communication dans les médias, des études à prétention scientifique. On a un corpus très, très important visant à stabiliser une expertise sur la question de la traite. Et ce qu'on s'est ensuite attaché à partir de ça, c'était à questionner les effets des circulations d'acteurs et de savoirs, en constatant qu'on assistait à l'émergence d'une figure assez stabilisée de la victime de traite, que, pour résumer, je pourrais décrire comme étant nigériane, jeune, décrite comme étant sous emprise, notamment du vaudou, et, je cite les propos des acteurs qu'on a suivis, ne se reconnaissant pas comme victime. Et on a émis l'hypothèse sur laquelle on travaille actuellement, que cette figure assez stabilisée donc de la victime de traite, qui de fait exclut un certain nombre de personnes présentant des parcours différents, résultat d'un processus de coproduction qui nous semblait assez singulier à ce domaine de l'action publique, entre des acteurs associatifs, des acteurs policiers et des acteurs judiciaires, et coproduction donc d'une politique de lutte contre la traite qui avait conduit à l'émergence d'un réseau assez routinisé de coopération et de ce fait à la cristallisation d'une expertise sur ce qui fait la bonne victime de traite. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est questionner les effets de ces réseaux d'acteurs, des formes d'entre-soi qui président en termes de construction de la victime. Et puis le troisième point sur lequel se concentrent nos analyses, c'est donc cette sphère judiciaire, la tenue d'un procès qui constituant finalement l'aboutissement de la chaîne que j'ai brièvement retracée. Et là, l'observation du déroulement des audiences et puis la consultation des documents y afférents nous permettent d'analyser notamment les mécanismes d'administration de la preuve. Alors c'est en cours, mais ce qu'on constate déjà, c'est que les acteurs du pénal ne se sont pas encore réellement appropriés la catégorie juridique de traite et de victime de la traite, en dépit d'une circulaire de 2015 du ministère de la Justice appelant à faire un usage renforcé de cette qualification. Donc en général, ils retiennent plutôt le proxénétisme aggravé. Et par contre, ils se sont appropriés la catégorie morale de traite, qui est notamment alimentée par de nombreuses sources médiatiques disponibles sur le sujet. Et donc on a une invocation assez récurrente dans l'arène du tribunal, alors même que le nombre de procès ouverts sous la qualification de traite est assez réduit. On a une invocation assez récurrente de la traite qui renseigne sur la plus-value morale et symbolique que semble représenter cette invocation dans le développement d'un argumentaire. Ce qui signifie aussi que le poids des représentations de ce qu'on appelle la prostitution forcée, une équivalence est souvent posée entre prostitution forcée et traite, le poids de ces représentations sur la justice rendue n'est pas anodin et explique sans doute l'inconfort des professionnels du droit à l'égard de victimes dont le rapport à la prostitution n'est pas tout à fait conforme au schéma narratif dominant. Et je pense notamment donc aux victimes qui auraient fait le choix d'un recours à la prostitution, ou aux victimes, ce qu'on a observé plusieurs fois en salle d'audience, qui prennent la défense de leur proxénète. Et ce constat nous a amené à poser l'hypothèse qu'il fallait finalement penser ensemble les représentations des deux acteurs, proxénète justement et victime, avec une hypothèse à travailler qui est que finalement on a l'impression au sortir de la salle d'audience que le bon proxénète fait aussi la bonne victime. Plus largement, ce qu'on constate aussi, c'est que l'observation de ces procès pour traite ou proxénétisme qui donc mettent en scène des protagonistes étrangers impliqués dans la prostitution donnait à voir de manière assez frappante comment se combinait chez ces professionnels du droit une forme de savoir expert, donc un savoir juridique, avec un savoir plus quotidien qui relèverait plutôt d'un sens commun, donc qui est notamment nourri par les sources médiatiques que je mentionnais avant, et un sens commun qui conduit alors d'une part à ethniciser la figure de la victime et d'autre part à lier fortement la reconnaissance du caractère de victime à la performance de la souffrance par la victime elle-même, si elle est présente, ou à la possibilité de mobiliser la souffrance dans les plaidoiries. Et alors pour conclure, je dirais simplement peut-être que cette étude des pratiques institutionnelles d'aide, de contrôle, de qualification des prostituées migrantes, elle renseigne à la fois quant à la manière dont les configurations de l'espace public autour des questions de migration et de prostitution interagissent finalement avec le travail quotidien des agents qui sont chargés de mettre en œuvre les politiques publiques en matière de lutte contre la traite. Elle révèle en particulier le rôle des émotions, et je pense à ce que disait le ministre tout à l'heure. Effectivement, le jugement est toujours une approche personnelle, comme il a dit. On voit assez bien dans nos matériaux le rôle des émotions, le rôle des valeurs, des affects, dans ce travail juridico-pratique de production de catégories. Et puis, surtout, un point sur lequel je n'ai pas encore assez d'éléments, mais que j'aimerais porter à votre connaissance, c'est que ces données collectées doivent aussi nous permettre de comprendre la faible mobilisation de la ressource judiciaire par les victimes de traite et d'interroger, au contraire, les ressorts de l'action de celles qui se constituent partie civile, en essayant de savoir si cet accès à la justice répond plutôt à un désir de punition, à un désir de réparation ou à un désir d'indemnisation. Je vous remercie pour votre attention.
Alors, merci beaucoup. Pour conclure cette table ronde, je vais laisser la parole à notre discutant, Cyril Lacombe, qui est magistrat, assistant du membre national pour la France à Eurojust et qui va sans doute nous donner finalement une vision assez différente, différente dans le sens où il se place pas du même point de vue et qui va être celle plutôt peut-être de l'usage de la frontière justement et de son instabilité voire de sa disparition.
Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors j'ai la charge d'être discutant, d'être le professionnel qui fait le lien, qui fait la synthèse. Je n'ai pas la prétention de faire la synthèse des excellentes interventions qui ont été faites, qui sont vivifiantes pour lancer ce débat, lancer cette discussion dans le cadre de cette première table ronde sur le droit et les frontières, où on s'aperçoit, et c'est ce que disait Madame Rinucci, que le fil rouge, le fil conducteur, c'est l'étranger. L'étranger qui est vu en qualité de victime, en qualité de personne à protéger. Alors je vous proposerai, et tout en conservant la qualité de victime de l'étranger, qui deviendra plutôt dans mon propos le migrant, et je terminerai ma brève intervention, puisque l'objectif c'est aussi qu'il y ait une interaction avec la salle, par une approche du côté d'Eurojust ou de la part d'Eurojust du niveau européen, de la crise migratoire actuelle, et de la manière dont, à mes yeux et à nos yeux, les frontières, en tout cas les frontières extérieures de l'Europe, se trouvent bousculées, renversées, voire ont pu en grande partie disparaître et mettre en question derrière, par un effet domino, les frontières politiques à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de l'espace Schengen, et bouscule la liberté de circulation qu'on a connue et qui fait que depuis quelques années, l'Europe a pu se développer. Très intéressant que la mixité entre la recherche et les praticiens, on pourra dire deux mots aussi de la manière dont les études sur la traite des êtres humains et l'approche qui peut en être faite peut permettre le démantèlement à plus grande échelle de réseaux de prostitution, en permettant d'identifier quel est le personnage clé du réseau dans la constitution globale du réseau entre la France et notamment le Nigeria, où va se situer la personne clé et où, dans un souci d'efficacité de la politique d'action publique, de la politique judiciaire, les forces judiciaires vont pouvoir s'appuyer pour démanteler le réseau en s'appuyant sur et en éliminant en quelque sorte ce lien particulier. Quelques éléments d'introduction rapide sur Eurojust et sa mission. Eurojust, c'est un organe de l'Union européenne qui a la chance de regrouper en son sein 28 bureaux nationaux qui se situent à La Haye. On est le pendant côté judiciaire d'Europol, agence de coopération policière qui est plus connue. Donc Eurojust, Union de coopération judiciaire européenne, 28 bureaux nationaux dont l'action au quotidien, l'action opérationnelle et concrète au quotidien est d'aider les collègues en juridiction, procureurs, juges d'instruction qui ont des besoins en termes de coopération pénale, d'exprimer ces besoins. On est des facilitateurs, on va mettre en relation les justices et les autorités de poursuite européennes de manière à les faire se rencontrer autour d'une table dans le cadre de réunions de coordination, dans le cadre de mise en place de centres de coordination, d'équipes communes d'enquête pour permettent que les frontières, et on en revient à la notion juridique, la notion de cette table ronde, les frontières juridiques qui existent entre les différents systèmes européens puissent être non pas totalement gommées, mais qu'on puisse faire rentrer dans une même boîte qui va être une enquête européenne unique avec une volonté de démanteler un réseau sur sa dimension transnationale, qu'on puisse la faire rentrer dans cette boîte unique de manière à renforcer l'efficacité des poursuites et non pas traiter de manière parcellaire de ci, de là, dans tel ou tel pays, une partie du réseau. La vision européenne et de la crise migratoire actuelle qu'on peut avoir au niveau européen et au niveau d'Eurojust, je trouve, est assez vivifiante ou bouleversante quand on voit la fracture ou la percussion entre des droits différents, le droit d'asile, les règles qui sont posées par les États pour pouvoir arriver, mettre le pied sur le sol européen et demander l'asile ou en tout cas séjourner sur le territoire européen, et les droits de secours et d'assistance en mer, le principe de non-refoulement, qui font qu'aujourd'hui, depuis un petit peu plus de 2 ans, l'Europe est confrontée à cette crise migratoire qui avait commencé en Méditerranée centrale avec l'île de Lampedusa et l'arrivée massive de migrants en provenance de la corne de l'Afrique, qui s'est prolongée l'année dernière avec plus d'un million de migrants qui sont arrivés par les îles grecques et par la Turquie, donc essentiellement des migrants syriens, avec la mise en place par l'Union européenne d'un plan d'action et d'un accord avec la Turquie pour justement mettre en place la possibilité d'examiner, non pas une fois que la personne est sur le territoire européen, mais quand elle se trouve en Turquie, son droit d'asile et la faire venir de manière légale et encadrée sur le territoire européen. Et aujourd'hui, les conséquences de cet accord qui font qu'on a une explosion des flux migratoires de nouveau en provenance de la Corne de l'Afrique et de Syriens qui passent par l'Égypte, en provenance de la Libye et à destination de l'Italie. Et on voit bien que le droit de secours et d'assistance en mer joue véritablement comme un facteur attractif, mais à néant la notion même de frontière, puisque à partir du moment où les personnes, alors parfaitement prises en charge par des réseaux de passeurs, sont en mer et avec un téléphone satellite, hein, on appuie sur le bouton qui va bien, on appelle le centre de secours à Rome et on a toute une escadre qui est déployée en Méditerranée, et c'est évidemment heureux qu'elle soit là sous la houlette de l'UNFORMED et d'autres associations qui prennent en charge ces migrants. Et à partir du moment où ils mettent le pied sur un bâtiment d'Union européenne, on se doit d'examiner, de ne pas les refouler, d'examiner le droit d'asile. Mais les passeurs en face l'ont particulièrement bien compris et ça joue véritablement comme un facteur attractif. Et ça pose des défis, puisque derrière cette masse migratoire, arrivant en Europe, génère les difficultés, le montée des populismes et les difficultés actuelles qu'on peut rencontrer. Donc il y a un effet domino assez important. Et je terminer mon propos peut-être en introduisant le débat et en me disant, mais finalement aujourd'hui, quel est le grand gagnant de cette situation? Les victimes continuent à être des victimes, les migrants continuent à être des personnes exploitées, considérées dans certains cas comme des marchandises, et les grands gagnants, ce sont les associations et les groupes de passeurs qui, eux, ont parfaitement pris la mesure de la dimension du droit de secours et d'assistance, de la possibilité d'une absence ou une difficulté de contrôler les flux financiers, d'identification des pays où il convient de s'installer. Et là, alors pour le coup, une association au sein de ces réseaux de passeurs multiculturels et internationaux absolus, où il n'y a plus de frontières et où les différentes nationalités arrivent tout à fait à se parler, à échanger et à commercer entre eux, au détriment du migrant et de la victime. Et peut-être qu'on peut introduire un petit peu le débat sur cette notion de frontière. Est-ce qu'on doit arriver sur le no border, c'est-à-dire une disparition de la frontière qui aujourd'hui est finalement ce qui renforce les groupes de passeurs, puisque plus on va mettre des barrières et plus on va mettre des barrières physiques pour limiter ces flux, plus le prix du passage va augmenter, plus il va y avoir de décès en mer, plus il va y avoir d'utilisation d'autres moyens comme les faux papiers, ou est-ce qu'on doit en rester ou en revenir à une politique extrêmement stricte, extrêmement rigide, où on met justement en place des frontières et on fait ce qui se passe peut-être dans les Comores, on renvoie et on expédie systématiquement les migrants chez eux. L'équilibre, évidemment, est difficile à trouver, comme toujours. Je n'ai pas de solution. Je vous livre quelques éléments de réflexion. Ça peut peut-être permettre de lancer le débat. Je pense que la salle a hâte, après ces longues interventions très intéressantes, de pouvoir s'exprimer et d'interagir avec nous.
Je vous remercie beaucoup et je propose qu'effectivement on commence à prendre les premières questions, sachant que nous avons jusqu'à 11h30, puisque tout s'est déroulé parfaitement, qui sera l'heure de la pause, à peu près 11h30.
Merci. À propos du dernier exposé, je voudrais savoir, j'imagine que vous avez fait un travail au niveau de tous les pays d'Europe, quid de la Suède, puisque ça fait des années que le client, entre guillemets, est condamné, et donc quid des réseaux d'esclavage ou de prostitution, de traite dans ce pays-là, suite au vote de la loi. Et donc, est-ce que vous pouvez parler aussi au niveau juridique de ce que c'est l'esclavage, entre guillemets, prostitution, esclavage sexuel, les frontières? Merci.
Merci pour cette question. Moi, ce projet que je vous ai présenté il porte sur la France et sur l'Allemagne, donc je ne voudrais pas m'avancer sur la Suède en faisant comme si je disposais d'un matériau empirique conséquent sur la question. Ce que je pourrais simplement répondre, mais je pense que sans doute vous le savez déjà, c'est que le modèle suédois est très contesté aussi, justement parce que on a souvent dit que la pénalisation du client avait conduit, et donc bien sûr le débat est ressorti sous une forme très comparable au moment de l'adoption de la récente loi en France, la pénalisation du client avait conduit à une invisibilisation accrue des prostituées et à les rendre de fait plus dépendantes des réseaux, puisque pour continuer à pouvoir travailler, même si le terme de travail fait débat, elles étaient contraintes à se cacher, en gros, pour le dire un peu rapidement. Donc le modèle suédois a été très critiqué sur ce point. Je pense qu'on trouverait peut-être autant de défenseurs de ce modèle, sachant que, comme je l'ai rappelé au début, les débats sont très clivés, donc les prises de position sont à prendre avec des pincettes. Chacun peut faire dire au même modèle ce qui l'arrange en fonction de l'angle d'attaque retenu. Voilà. Alors, peut-être quand même garder en tête le fait que cette pénalisation du client, de fait, comme elle ne va pas faire disparaître la prostitution du jour au lendemain, elle conduit à un plus grand secret des pratiques. Ce qui, forcément, pose question en termes de protection des personnes. Sur votre deuxième question, en fait, la définition à laquelle fait aussi référence le droit français, c'est la définition donc de la traite des êtres humains. C'est la définition qui a été posée par le protocole additionnel de la Convention des Nations Unies de lutte contre la criminalité organisée. Et ce protocole qu'on appelle en général le protocole de Palerme, je peux vous en lire la définition. J'aurais peut-être dû le faire d'ailleurs pour qu'on parle tous de la même chose. Définit la traite des êtres humains comme le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. C'est une définition qui a aussi fait l'objet de controverses, notamment parce que la notion de contrainte est un petit peu difficile à établir en droit, et c'est précisément ce qu'on observe, ce qu'on essaye d'observer, nous, dans l'arène des tribunaux, à savoir les usages de cette notion de contrainte pour établir la preuve, souvent retenue comme équivalent d'une matérialisation de la preuve dans les cas de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle.
Donc c'est une petite question pour Monsieur Slama. Donc c'est concernant justement ce qui s'est passé à Mayotte. J'ai l'impression que le Conseil d'État doit souvent avoir le bras tordu un petit peu par la CEDH pour, je dirais, quelque part comprendre que certaines fois, j'ai l'impression que le Conseil d'État prend fait et cause pour l'administration, entre guillemets. Alors que la CEDH a l'air vraiment de parler vraiment d'application du droit, parce que bon, pour ce côté-là, j'avais vraiment l'impression que la CEDH a enfin dit le droit, alors que le Conseil d'État, je dirais, a presque fait, je dirais, un petit peu de politique. Donc j'ai envie de savoir votre avis, et si je ne me suis pas trompé.
Je réponds tout de suite. L'analyse est assez complexe. Bon, pour la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt de principe, c'est des Sousa Ribeiro qui concerne la Guyane. C'est assez important de noter que la Cour européenne des droits de l'homme a balayé les arguments du gouvernement français disant on est dans un contexte migratoire exceptionnel. Donc, voilà. L'argument a été développé. J'étais à l'audience à la Cour, hein, à la Grande Chambre. Et cet argument a été balayé par la Cour en disant quand on est dans le champ des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, donc la prohibition de la torture ou des traitements inhumains et dégradants, on n'admet aucune dérogation, même si on est dans un contexte migratoire exceptionnel. Donc évidemment, ce qui fait que si on applique des Sousa Ribeiro à Mayotte, il devrait y avoir un recours suspensif. Et donc s'il y a un recours suspensif, évidemment, tout le système s'effondre, puisque les Comoriens pourraient, en reconduite à la frontière, pourraient saisir le juge et ça paralyserait la procédure le temps que le juge se prononce. Et évidemment, à Mayotte, il y a en fait un tribunal administratif à Mamoudzou, mais c'est un magistrat, quoi. Et le reste, à La Réunion, en vidéoconférence. Donc ils n'ont absolument pas les moyens de traiter des milliers de requêtes ou des dizaines de milliers de requêtes chaque année. Bon. Ce qui fait que quand on porte l'affaire dans le Conseil d'État, ils sont relativement embêtés, parce qu'on a tout de même des membres du Conseil d'État, notamment Mathias Guillaumard, qui veut en apparence respecter la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui la connaît parfaitement, et donc en plus on la soulève devant lui, etc. Mais en même temps, il veut laisser la marge de manœuvre à l'administration. Il veut notamment laisser au législateur le temps d'adopter la loi du 7 mars 2016. Et donc il tord complètement le droit. C'est-à-dire on fait un système qui en apparence respecte les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, mais en réalité, qui n'offre aucun recours. C'est-à-dire, concrètement, les gens n'ont pas accès au recours. C'est assez facile à démontrer. Il y a 7 ou 8 affaires qui ont été portées au Conseil d'État. Toutes ont été portées devant la Cour européenne des droits de l'homme. La plus ancienne date de 2013, tout de même. Donc on finira bien par faire condamner la France par la Cour. C'est à peu près sûr. Sauf que c'est une question de temps. Mais plus largement, moi, je pense qu'on est dans un système absurde. C'est-à-dire ce système ne rime à rien. Il faudrait développer une autre politique d'immigration dans les Comores. Il faudrait arrêter d'appliquer les frontières européennes et la conception de la frontière à l'européenne, nationale, à cet endroit-là. Ça n'a aucun sens. Mayotte doit vivre avec son environnement. Et son environnement, c'est Madagascar et les Comores. Elle ne peut pas tourner le dos aux îles. Ça n'a aucun sens de faire ce qu'on est en train de faire et de dire que les Comoriens sont des étrangers à Mayotte. Ils sont pas étrangers à Mayotte. C'est faux. Et le problème des émeutes xénophobes actuellement, c'est ça, c'est qu'on a créé fictivement une opposition entre les populations. Juste sur la définition, je voudrais dire que la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt Ciliadin de 2005, a défini la différence entre l'esclavage et la servitude ou le travail forcé, en fait. Donc l'esclavage, c'est vraiment la réduction à l'état d'objet, c'est la chosification d'une personne qui n'a plus d'identité, qui n'a plus de personnalité. Alors que la traite, vous l'avez dit, c'est une forme d'exploitation de toute forme. Donc, j'aimerais réagir aussi, par rapport à M. Lacombe. L'accord entre l'Union européenne et la Turquie ne respecte absolument pas les droits fondamentaux et absolument pas le droit d'asile. Les Syriens qui arrivent en Grèce depuis cet accord, depuis la mise en œuvre de cet accord, on n'examine pas leur demande d'asile, on examine la recevabilité de la demande d'asile à propos de la question de savoir si la Turquie peut être considérée comme un pays tiers sûr. La Grèce a adopté dans des délais très brefs, et la Turquie aussi, des lois qui disent que la Turquie est un pays tiers sûr, mais ce n'est pas le cas au sens des textes. Il faudrait que la Turquie ratifie la Convention de Genève en reconnaissant l'application ou non européenne. Parce que pour l'instant, la Turquie ne reconnaît l'application de la Convention de Genève qu'aux populations européennes, et les Syriens sont non européens. Donc, en l'état actuel du droit, c'est absolument certain, il n'y a absolument aucun doute que l'accord, qui est un accord politique, un accord juridique, et sa mise en œuvre est contraire au droit européen. Et d'ailleurs, des juges grecs l'ont reconnu récemment. Il y a déjà des décisions. Donc, je peux affirmer sans aucun doute que l'Union européenne organise un système de contournement généralisé des droits fondamentaux, et notamment du droit d'asile, par cet accord. Ça a fonctionné d'un point de vue politique, puisqu'ils ont, coupé le passage par la mer Égée. Okay, l'objectif politique était celui-là, avec des contreparties énormes à l'égard de la Turquie, hein, tout de même. Mais il y a une violation fondamentale par les institutions de l'Union européenne et mise en œuvre par les Grecs des droits les plus fondamentaux, notamment le droit d'asile qui est garanti par la Charte des droits fondamentaux.
Bonjour. Ma question s'adresse aussi à monsieur. À monsieur Lacombe. Pardon ?
Il faut te présenter.
Emmanuel Doquès, je suis professeur à Nanterre et spécialisé en droit du travail, donc assez ignorant des questions qui ont été traitées, et donc je parle avec toute réserve. Il m'a semblé lire dans votre discours, à plusieurs reprises, une sorte de lien de causalité certes à nuancer, mais une sorte de lien de causalité entre, d'une part, une crise migratoire qu'on connaît, qui est très forte en Europe, et de l'autre côté, une fragilisation des frontières intérieures, une résurgence des frontières intérieures de l'Union, la montée des populismes, une montée de la xénophobie et toute la crise que traverse actuellement l'Europe. Et les deux étant liés par une forme de causalité en ce sens-là, que la crise migratoire favorisait ces montées de mouvements xénophobes. Ça, c'est ce que j'ai cru lire dans votre propos à plusieurs reprises, sans erreur jusqu'ici. Il me semble qu'il convient d'être plus prudent. Et il se pourrait que la causalité soit... Il se pourrait que la causalité soit double et qu'on ait aussi, et peut-être principalement, du fait de la montée de la xénophobie et du populisme, et de la montée de la xénophobie et du populisme en Europe, une violence accrue aux frontières et une réaction beaucoup plus grande en faveur d'une certaine expulsion. À ne pas voir ce deuxième aspect, je pense que ce deuxième aspect est très très important, et je pense qu'il faut le prendre en compte grandement, parce que si on est seulement dans le premier, une causalité qui serait due migratoire vers la xénophobie, on aura une double réaction. Un, considérer que la culpabilité de la montée de la xénophobie vient de l'étranger migrant. Deux, une justification d'une brutalité éventuellement accrue sur le mode Mayotte au sein de l'Union européenne. Et puis, quelque chose de plus grave encore, c'est qu'on va, au nom de la lutte contre la xénophobie, en quelque sorte, adopter toute une série de comportements qui sont en réalité des soumissions à cette idéologie xénophobe et des abandons des valeurs humaines essentielles. Donc il y a là quelque chose d'assez grave, j'ai trouvé, dans votre discours, puisque sous l'idée d'une protection, vous voyez ce que je veux dire, de l'Europe démocratique avec ses valeurs essentielles, vous prônez la violation des principes essentiels qui font justement cette démocratie. Ne conviendrait-il pas plutôt, si vous avez compris ce que je veux dire, de tenir bon dans nos valeurs humanistes, dans ces époques troublées, plutôt que de les abandonner du fait des troubles? Je vous remercie.
Je vous remercie d'avoir complété mes propos. Ils n'avaient pas vocation à être polémiques ou à partir sur un terrain politique ou de jugement dans la manière dont les différents États, on peut parler de la Hongrie, on peut parler de la Pologne, réagissent à cette crise migratoire. C'est simplement un constat que je fais. Alors ce constat, évidemment, il peut être des deux côtés, côté pression migratoire et côté est-ce qu'on réagit bien à cette pression migratoire. Et elles sont multiples, ces réactions. Il y a la réaction allemande il y a quelques mois, et puis il y a la réaction, comme je viens de dire, d'autres États. La difficulté que je vois, et moi je suis plus sur la... parce que je n'ai pas de connaissances géopolitiques, et je ne suis évidemment pas un politique ni un représentant de l'Union européenne pour défendre l'accord qui a été passé entre l'Union européenne et la Turquie, qui peut être à bien des égards critiquable également, et qui peut être mise en discussion par rapport à la Convention de Genève sur le droit d'asile. Non, mon propos était d'ouvrir le débat et de peut-être de montrer, mais j'aurais dû insister, sur la composante judiciaire de cette crise que nous on traite dans la partie démantèlement des réseaux de passeurs. Et ce démantèlement des réseaux de passeurs, on voit toute la difficulté à laquelle on se heurte, puisque on est nous contraints évidemment au respect des règles procédurales et à la mise en musique des différentes difficultés pour que les enquêtes européennes avancent. Et on se tourne vers des pays tiers. Et la plupart de ces passeurs ont des intérêts dans les pays tiers, évidemment, viennent de ces pays tiers. Et les flux financiers, d'ailleurs, quelquefois, par un système d'awala, ne transitent même pas physiquement par l'Europe. Et la nécessité de mettre en place une action concertée pour que, dans sa petite composante judiciaire, qui en est une, puisque ces passeurs sont des gens qui se comportent pour la plupart en esclavagistes, et les situations qu'on peut décrire et que peuvent vivre les migrants en Libye, on les dépeint sur les comme les esclavagistes du XXIe siècle. C'est absolument épouvantable ce que vivent les migrants. Donc il est nécessaire qu'on agisse au niveau européen, judiciairement parlant, sur les réseaux de passeurs. Et là, on se confronte à des difficultés, à des accords nécessaires avec les pays tiers, à des interventions dans ces pays tiers pour... par exemple, j'ai un dossier en tête où les passeurs ont leur centre d'intérêt économique au Kurdistan irakien. Il ne va pas être facile d'aller saisir des biens immobiliers, d'aller saisir des véhicules dans ces pays. Si on démantèle le réseau, et pour le faire sur sa plus grande longueur, ensuite, ça pose des questions de coopération et d'ouverture vers ces pays tiers. voilà, on peut rester sur cette composante judiciaire. Je ne veux pas du tout ouvrir une polémique sur la politique ou sur une vision démocratique ou non de certains pays.
Bonjour, je m'appelle Ivanka Ivanova, je suis bulgare. J'ai une question à Madame Serruti concernant votre étude des privilèges des étrangers. C'est plutôt deux questions. Quelle a été la base empirique sur laquelle vous avez effectué la recherche? Qu'est-ce que vous avez lu? Et la deuxième question est-ce que vous trouvez une relation entre cette procédure extraordinaire par laquelle ont été traités les étrangers et l'évolution des professions juridiques? Je demande en particulier, est-ce qu'il y a une relation avec le traitement de ces gens-là et le rôle des gens du roi qui sont à l'origine du parquet contemporain? Est-ce qu'ils ont intervenu dans les procédures comme ça et qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, oui. Oui, j'ai une partie de la recherche portée, comme je l'ai annoncé, sur une pluralité de sources. Enfin, il fallait trouver un peu de traces du traitement des étrangers dans une pluralité de sources, donc décrets sous la justice, etc. Mais la partie la plus importante de ma recherche a porté sur le fonctionnement de la procédure sommaire. La procédure sommaire, donc, on l'a dit, pour les misérables, mais est aussi une procédure pour les gens mobiles, donc, et donc pour les étrangers. Et c'est la procédure qui était en vigueur dans les consulats de commerce pour les marchands. Et c'est une procédure intéressante. Enfin, il faut bien dire que en France, a vu un succès extraordinaire et avec cette idée d'équité, a été la seule. Les tribunaux de commerce ont été les seuls tribunaux qui ont survécu au changement révolutionnaire. Avec une proposition d'une justice supralocale qui, manifestement, a largement intéressé aussi les révolutionnaires. Enfin, et je pense qu'il y a des travaux importants, faits aussi par des collègues de l'école, Alain Cotreau, sur ces justices marchandes, en tant que justice pour les étrangers, en tant que justice supralocale. Donc des corpus de procès. Enfin, j'ai largement travaillé sur des procès, sur des procédures. En ce qui concerne votre question, deuxième question, elle est vraiment un peu au centre du problème de la sommaire. Il faut dire que les attaques les plus féroces à la procédure sommaire ont été portées par le corps des avocats. L'interdiction faite aux avocats de rentrer dans les tribunaux a été quelque chose qui a été très, très controversé et très attaqué par le corps des avocats. La situation sur laquelle j'ai travaillé, les États savoyards, etc., où j'ai essayé de suivre un peu aussi l'oubli de cette procédure. Aujourd'hui, si on dit un jugement sommaire, on a donc l'idée l'absence de la justice. Enfin. Jusqu'aux années 1730, dans la situation dans laquelle j'ai travaillé, la justice sommaire était le comble de la bonne justice. C'était la justice directe par excellence. Et je pense que j'essayais de reconstituer dans ce livre sur la justice sommaire, aussi dans un autre livre sur la justice sommaire, toute la compétition extraordinaire et le conflit qu'elle a suscité au cœur du corps des avocats et finalement la défaite de la procédure sommaire et aussi sa transformation du mot sommaire correspond à l'entrée. Je suis désolée parce que je sais que ce n'est pas le bon milieu dans lequel peut-être décrire cette vicissitude. Mais cette défaite de cette procédure est largement liée au succès des avocats et à la prétention de rentrer dans toutes les procédures et en particulier dans cette procédure qui les excluait largement. Les juges de la procédure sommaire n'étaient pas des juges professionnels. Ça, c'est Donc c'est exactement une compétition qui a vraiment au cœur la constitution aussi, le renforcement du corps des avocats.
Oui, bonjour, Sandrine Ziantara, directrice de la mission de recherche Droit et Justice. J'aurais une question pour Monsieur Slama concernant Mayotte, où j'ai exercé à une époque, dans les années 98-2002, où on assistait vraiment en matière de droit des étrangers à un infradroit. Depuis, il y a eu un certain nombre de progrès effectués par le législateur, même s'ils sont limités, vous l'avez très bien montré. Et donc ma question et mon étonnement est le suivant. Comment expliquez-vous que les avocats à Mayotte aient si peu investi la matière et qu'il y ait si peu de recours ?
J'ai effectivement pas eu le temps de parler du fait qu'il y a eu des évolutions récentes, notamment, comme vous le savez, avant il y avait une ordonnance spécifique sur les étrangers à Mayotte et désormais, depuis une ordonnance du 7 mai 2014... en gros, le code des étrangers s'applique à Mayotte sous réserve d'exceptions, notamment la principale exception, c'est pas de recours suspensif de plein droit. Ce qui avait été contesté, hein, c'était une ordonnance qui a été contestée devant le Conseil d'État par les associations, et le Conseil d'État a rejeté la requête en violant directement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme des Sousa Ribeiro. Alors pourquoi il y a peu de recours ? C'est extrêmement compliqué de défendre les étrangers à Mayotte. La plupart des défenseurs des étrangers à Mayotte ont une pression très forte d'une partie de la population. Il y a une vraie xénophobie des Maoris à l'égard des Comoriens. C'est une réalité, on le voit actuellement. C'est souvent en fait des fonctionnaires français en fait qui sont là-bas, ce qu'ils appellent les Umzungu, qui sont là-bas, qui défendent à travers Réseau Éducation Sans Frontières, la CIMAD, etc. Et ceux qui le font, ils ressentent une pression au quotidien. Même, moi-même, quand j'étais à Mayotte, j'ai vu... avoir la position des étrangers ont des droits, c'est pas une position facile à assumer à Mayotte. Et donc au quotidien, ceux qui défendent les étrangers ont des pressions à la fois des autorités locales. Et il y a eu des dossiers, par exemple, de fonctionnaires qui n'ont pas été renouvelés par la préfecture. Vous savez peut-être que pour être à Mayotte, il y a une procédure spéciale où tous les deux ans, la préfecture donne son accord au renouvellement du fonctionnaire local, ce qui est une aberration. Hein. C'est pas le rectorat, hein, c'est la préfecture. Donc on a fait du contentieux qu'on a gagné d'ailleurs sur des fonctionnaires non renouvelés en raison de leur engagement auprès des étrangers ou dans les mouvements sociaux à Mayotte. Et puis de toute façon, vous ne gagnez rien. La seule avocate qui le fait, c'est absolument pas rémunérateur de défendre les Comoriens. Vous imaginez tout de même les populations qui arrivent. Le droit est complètement dérogatoire là-bas. Pour être payé, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc c'est à la fois par rémunérateur et très 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 dévalorisé sur place. Il y a de toute façon très peu d'avocats à Mayotte, hein, de manière générale, hein, c'est un barreau très peu développé. Il n'y a quasiment pas de formation. C'est compliqué d'organiser des formations là-bas. Les associations l'ont fait, mais je vous assure qu'il y a un coût énorme qu'il faut assumer. Hein. Donc il y a un ensemble de facteurs structurels qui expliquent l'absence de défense des étrangers là-bas. Quoi. Mais tout le monde est désœuvré là-bas. Les magistrats, souvent, je crois qu'il y a très très peu de magistrats à Mayotte. Et ils ont un travail monstrueux. Hein. Par exemple, une des choses qu'ont dû faire les magistrats civils, c'est reconstituer l'ensemble de l'État civil. Vous l'avez peut-être vécu d'ailleurs, parce que c'est à peu près la période. Donc c'est-à-dire l'État civil des Cadis, c'est un État civil religieux hein, jusqu'à une époque récente. Tout l'État civil a dû être reconstitué. Et donc ça pose. Et évidemment, l'État civil détermine la nationalité des gens, etc. Enfin, et donc, il y a beaucoup de gens qui sont complètement désœuvrés. Mais moi, ma conviction, c'est que la politique qui est menée là-bas, il y a une politique positive. On développe des collèges, des lycées, des structures publiques, etc. Mais l'aspect négatif, c'est que la seule réponse de l'État, c'est la reconduite à la frontière. Donc, avec un phénomène de militarisation, il faut voir tout de même les méthodes qui sont utilisées pour envoyer les gens, etc. Et je pense que c'est la mauvaise solution. La bonne solution, ça serait d'essayer d'avoir un accord avec les Comores de liberté de circulation, Mais ça serait une politique. Ça a été dit dans des rapports parlementaires. Hein. Il y a un certain nombre de rapports sénatoriaux qui ont dit que c'était la mauvaise solution. On est dans une politique sans fin. Et surtout, on est dans une politique qui accentue les différences entre les populations locales et qui aboutit à ces émeutes xénophobes. Je pense que c'est l'État de type colonial qui a construit cette opposition entre Maorés et Comoriens. Et moi, je ne serais pas étonné que bientôt, il y ait des morts sur cette île. Il y a des morts. Je le pense, je l'ai déjà dit dans plusieurs colloques, donc les faits sont en train de me donner raison, mais on est en train de créer une situation intenable, totalement intenable, d'un point de vue économique et d'un point de vue d'opposition des populations. Donc, et la seule solution, pour moi, c'est sortir le tiers de la population, 60 000 personnes, de l'infradroit. Et actuellement, il y a un tiers de la population qui n'a accès à rien. Il n'y a pas d'aide médicale d'État pour les sans-papiers à Mayotte. Il n'y a pas d'accès aux juges en pratique. Il n'y a rien. Enfin, je veux dire, il n'y a rien. Même un sans-papier en France, en métropole, a plus de droits qu'un sans-papier comorien à Mayotte. Et donc il faut sortir de cette situation. Il faut appliquer les droits fondamentaux à Mayotte. Il faut régulariser des gens. Il faut faire une politique de régularisation, par exemple. Ça, c'est aussi quelque chose que ne veut pas faire l'État français. Mais à mon avis, c'est une nécessité impérieuse.
Merci beaucoup. Je suis premier président de la Cour d'appel. Donc vous comprendrez que la question des migrants m'intéresse. Et je suis un peu surpris que... c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que ça intéresse également le GIP, justice, les conseils, toutes ces questions-là? Parce que c'est passionnant ce qui se passe à Mayotte, c'est intéressant ce qui s'est passé, et c'est bien d'avoir la stratégie du détour pour essayer de s'en rendre compte de quelque chose. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je suis désolé, je suis un peu terre à terre, c'est les pratiques. Quelles sont les conséquences, en sont les conséquences sur les migrants? Vous parlez de traite des êtres humains, mais la question n'est pas tellement ce dont on parlait tout à l'heure, mais c'est comment ça se passe, pourquoi il n'y a pas beaucoup de sur les trafics d'êtres humains, y a-t-il des difficultés Voilà, c'est ce travail-là d'évaluation qui nous intéresse, nous, dans la cour d'appel de Douai, pour évidemment améliorer nos pratiques. Voilà.
Juste, Monsieur le Président, avant de répondre, le Eurojust a soutenu le projet qui a été mis en place par le parquet général. Oui, non, mais ça permet d'illustrer aussi, parce que peut-être que l'auditoire l'ignore, effectivement, il y a une problématique très particulière dans le nord de l'Europe, avec un flux migratoire exclusivement dans un sens unique, rivage de la mer du Nord, Angleterre, Royaume-Uni. Donc il a été mis en place, sous l'impulsion du parquet général de Douai, une structure qui collabore avec l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et la France, où on dédie des procureurs et enquêteurs de manière à essayer de mieux appréhender ce phénomène dans sa composante diverse, de manière à pouvoir apporter des solutions judiciaires adaptées. Donc sur l'aspect judiciaire, effectivement, on essaie de faire le...
Je vous remercie pour votre question. Donc simplement, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, la mission droit et justice, en réalité, elle est essentiellement elle a un rôle important de financeur de projets de recherche. Ces projets de recherche, soit ils sont spontanés, donc on attend un retour des chercheurs directement, voilà, tout à fait, soit ce sont des appels à projets. Alors, les appels à projets que nous développons, ils sont faits en collaboration avec les différentes directions du ministère et des retours surtout qu'on en a. Et d'ailleurs, on a eu cette année, on a présenté, un des appels à projets qui était ciblé était sur le racisme. Voilà, donc c'est vrai que ce type de problématique aurait d'ailleurs pu rentrer à l'intérieur. Mais on est tout à fait ouvert, évidemment, à présenter de futurs projets sur ces thématiques-là. Le problème, c'est qu'on est tributaire des chercheurs. Donc il faut absolument qu'on ait des équipes de recherche qui s'y intéressent. Mais on est ouvert, mais même la politique, depuis que la nouvelle direction est arrivée, c'est justement d'encourager ces passerelles entre les professionnels et la recherche. Et d'ailleurs, pour la première fois cette année, on a lancé des recherches actions, véritablement, dont d'ailleurs... La personne qui dirige, qui coordonne cette recherche action sur la contrainte pénale est d'ailleurs ici. Voilà.
Je suis également adjoint à Mme Zientara, directrice de la mission de recherche droit et justice. J'aimerais compléter notre réponse à la question très pertinente de M. le Premier Président de la Cour d'appel de Douai au sujet du droit des étrangers, qui nous intéresse à plus d'un titre. Nous sommes d'ailleurs avec le HESS et la SDSE à l'origine du programme d'aujourd'hui sur le droit, la justice et les frontières y compris, et pour commencer au sens littéral du terme, donc les frontières politiques entre les États et les migrations et les difficultés des étrangers et la justiciabilité des mesures qui sont prises à leur encontre. Donc voilà, nous sommes à l'origine de ce programme en partie. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que, à côté des projets spontanés, nous traitons, nous finançons, nous soutenons, nous accompagnons, nous valorisons des projets en réponse à des appels à projets auxquels Mme Zientara a fait allusion. Ces appels à projets, nous les concevons en fonction des sollicitations, des membres du groupement, c'est un GIP, un groupement d'intérêt public. Le premier d'entre eux, le ministère de la Justice, avec ses directions et services, mais aussi le Conseil supérieur du notariat, le CNRS, le Conseil national des barreaux. S'agissant du droit des étrangers, il intéresse certaines directions du ministère, mais le ministère qui, et je pense que M. Slama ne me contredira pas, qui a la main sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA. J'ai fait un passage dans la juridiction administrative, donc je le connais un petit peu. C'est le ministère de l'Intérieur. Voilà. Alors, nous pouvons bien sûr discuter avec le ministère de l'Intérieur, mais pour le moment, voilà, nous essayons surtout d'animer le réseau qui nous est propre. Ensuite, nous ouvrons de plus en plus, ou nous nous ouvrons à nouveau à la justice administrative, sur laquelle le GIP a déjà travaillé. À l'époque, il avait des collections. Il y a eu déjà des travaux et des publications concernant le droit des étrangers, mais plutôt dans les années 2000 de mémoire. Et aujourd'hui, j'essaye de nous rapprocher de la juridiction administrative. En la matière, le droit est en grande partie jurisprudentiel. Et donc, j'inviterai bien sûr le Conseil d'État à nous faire des suggestions. Et je ne serais pas étonné qu'il ait des idées de recherche concernant le droit des étrangers. Voilà, sur sa mise en œuvre concrète, sur le terrain. J'avais une question d'ailleurs pour M. Slama, et après, bien sûr, je rendrai la parole. Est-ce qu'il y a un centre de rétention administrative à Mayotte ?
Oui. En fait, il vient d'être construit. Vous savez peut-être que c'était un endroit qui... Il y avait une vidéo qui avait fuité sur les conditions abominables du centre de rétention de
Mayotte. Ah oui, effectivement.
Cette année, c'est fin 2015, début 2016, on vient de rouvrir un nouveau centre qui est mis aux normes européennes. Le centre de rétention, c'est pas une question absolument essentielle à Mayotte parce que les gens y restent très très peu de temps. Sauf s'il y a des problèmes météo ou quasiment
bien sûr.
Tous les jours.
Bien sûr.
Les gens restent moins de 24 heures en fait dans ce centre. Il y a un énorme passage, mais c'est le centre qui voit le plus passer de monde, puisqu'il y a à peu près 15 à 20 000 personnes qui passent chaque année dans ce centre.
Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que, pour revenir au Conseil d'État, c'est le Conseil d'État qui gère les moyens dont dispose la justice administrative. Donc la question fondamentale, effectivement, c'est d'abord qu'il y ait des recours. Que le caractère suspensif des recours soit respecté, etc. Mais fondamentalement aussi, en regard des justiciables et de leurs conseils. Donc pour cela, il faut qu'il y ait des avocats, comme le demandait Diane Tara tout à l'heure. Il faut qu'il y ait des juges. Et effectivement, là, il y a vraiment un sujet sur l'insuffisance des moyens de la juridiction.
Sur le contentieux de la reconduite à la frontière, l'acteur principal, en fait, c'est la situation qui intervient en rétention. Vous savez que dans l'ensemble des centres de rétention, il y a un marché public de la rétention. Et en fait, c'est des associations qui font les recours. Mayotte est dérogatoire. Il y a une association depuis cette année, c'est très récent, qui s'appelle TAMA, qui n'est pas la CIMADE. Alors que la CIMADE a le marché de l'ensemble des centres de rétention outre-mer, mais ne l'a pas à Mayotte. Et c'est une association qui n'est pas familière dans les recours juridiques. Il y a un gros problème. Donc en fait, c'est une association qui n'introduit quasiment pas ou pas du tout de recours juridiques. Donc c'est un gros problème parce que sinon, l'essentiel, la quasi-totalité du contentieux de la reconduite à la frontière, ce qu'on appelle le juge des 72 heures aujourd'hui, ça vient des associations. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut effectivement des juges. Si le contentieux des étrangers à Mayotte, il y avait suffisamment de recours, plusieurs milliers de recours, évidemment, il faudrait affecter énormément de juges à Mayotte, ce qui pose d'énormes problèmes, parce que notamment, les magistrats ne veulent pas forcément y aller. C'est pareil pour les juges civils. Assez souvent, les postes de magistrats là-bas ne sont pas pourvus.
Merci.
Voilà. Je vous remercie. Je vais laisser les mots de la fin à Monsieur Lacombe.
Merci. Juste quelques éléments pour rebondir sur les propos de Monsieur le Premier Président. Il est vrai que, et ça fait le lien entre la justice, la recherche, que peut apporter la recherche à la justice. On a organisé récemment un séminaire tactique à Eurojust sur la matière, sur la crise migratoire et la composante judiciaire de cette crise. Et c'est vrai que les praticiens ont appelé de leur vœu, alors les agences et les organes européens, mais au-delà de ça, au-delà de ces agences, la recherche, à pouvoir mieux apporter un retour d'information sur l'analyse des nouvelles tendances, sur les modes opératoires, sur la façon dont les réseaux se structuraient, ils se développaient, ils pouvaient exister. Je citais en introduction de mes propos tout à l'heure une excellente collaboration qu'il y a eu en matière de traite des êtres humains, où, et c'est un chercheur, Paolo Campana, que vous connaissez peut-être, qui est intervenu, qui a montré comment, par l'analyse des réseaux, on peut trouver le personnage clé. Et ce personnage clé, si on l'intercepte, on met à néant le réseau. Et là, la recherche peut être d'une grande aide dans la conception, dans la politique pénale pour s'attaquer à un phénomène. La recherche peut apporter beaucoup pour aider le praticien à conduire cette politique pénale et à lui donner les outils utiles et intéressants pour aller au cœur de sa cible et pouvoir la traiter directement.